Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hold on, everybody. Here it comes.
Podzol, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 96, ici Richard Delhomme. Dans cet épisode, je discute longuement avec Steven Le Yarrick et spécialement de sa série d'épreuves Gravelman dont l'édition hivernale et parisienne s'est déroulée ce week-end 15, 16, 17 janvier dans des conditions climatiques atroces de froid et de neige. De cet épisode de 2 heures, je retiens un aventurier, un cycliste et un organisateur, mais surtout un humain au grand cœur avec un humour bien particulier. Pour cela, il faudra patienter jusqu'à la minute de solitude, qui n'en est pas une. Quoi qu'il en soit, j'ai découvert peu après la fin de l'enregistrement que je suis inscrit au Gravelman Mont Blanc. Merci Steven pour l'invitation. Dans la newsletter numéro 13, vous trouverez le calendrier des épreuves légèrement mis à jour, avec notamment une épreuve au Kenya. Également un récit sur le Houblon Tour Gravel l'été dernier, ainsi qu'à Rambouillet-Versailles Gravel de 105 km grâce à Antonin. Si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous à cette fantastique newsletter hebdomadaire. Et sans plus attendre, donc, Steven Le Yarrick.
Allô ?
Steven Le Yarrick, bonjour, Richard Delhomme, comment ça va ?
Ça va, et toi, comment tu vas ?
Mais ça va ! Est-ce que tu es fatigué ?
Je suis... Non, ça va, Non, j'ai pu dormir. J'ai eu beaucoup de gens autour de moi, de bénévoles, de gens qui m'ont aidé. J'ai un petit assistant maintenant, hyper efficace. Non, je suis beaucoup moins fatigué qu'à Roubaix et qu'au retour de certaines expés, mais non, très content. Content d'avoir terminé ça, mais ouais, ça fatigue un peu quand de l'autre côté de la barrière, ouais.
Ouais. C'est plus de la fatigue ou de, comment dire, peut-être de, pas de l'inquiétude, mais en tout cas de la concentration pour être sûr que tout aille bien, que personne ne se fasse mal, veiller à ce que tout le monde soit content aussi.
Ah ouais, bah tout ça, plus mon perfectionnisme, le moindre mec qui avait un problème de dérailleur, j'ai essayé de lui réparer, j'ai lavé des vélos, j'ai lavé la chaîne de certains mecs, j'ai mis de l'huile dessus, enfin, les trucs que tu fais quand t'es toi-même dans les épreuves et tout le reste, les stress de gérer un photographe, un caméraman et tous les bénévoles. Tous les gens autour de moi qu'ils soient contents, et puis les derniers arrivants, j'avais peur parce que je m'en voulais, en fait je m'en voulais presque d'avoir fait trop dur, parce que je voyais les mecs arriver, surtout la trace gravel, et puis les conditions climatiques, ça a été un peu polaire, quoi, c'était pas vraiment prévu, mais étonnamment tout le monde est vraiment très content, et en fait j'ai eu des je comprends beaucoup d'organisateurs maintenant, parce que j'ai eu des mecs qui étaient plein de boue, plein de glace sur le vélo et tout, et ils arrivaient les larmes aux yeux et ils me disaient merci, j'ai jamais pris autant de plaisir sur un vélo, et je les regardais comme ça d'un œil un peu circonspect. Je me sentais un peu inquiet, et puis ça fait mal quand tu roules dans la neige quand il fait très froid, donc voilà, mais non, aujourd'hui je suis un peu soulagé, disons.
Jusqu'à la prochaine fois, où tu auras certainement d'autres problèmes. Moi en tout cas, je tenais à te féliciter, parce que j'ai jamais rien compris à ce que tu faisais, mais...
Ok.
Ah, tu pourras pas me reprocher de pas être franc et de ne pas te l'avoir dit.
Ah, mais je le suis profondément. Alors moi, je suis jamais gêné par les gens qui sont francs avec moi. Ça me fait toujours sourire, ce que j'aime bien. Mais
et donc, je vais le répéter, je n'ai jamais vraiment compris ce que tu faisais. En revanche, depuis que tu as lancé Gravelman, déjà l'édition Roubaix, je n'ai entendu que de bonnes choses. Et là, d'être capable de mobiliser des gens mi-janvier pour faire 300 bornes et en plus ne pas te faire pourrir un d'insultes et ne pas finir recouvert de goudron et de plumes parce qu'il a neigé, eh ben je dis bravo. Et c'est mobiliser comme ça une communauté, faire rouler les gens dans des conditions de merde, si on peut dire, à une époque pourrave, avec en plus un couvre-feu par-dessus le marché, eh ben, je trouve ça extrêmement respectable. Et pour le reste, eh ben, tu m'expliqueras un petit peu plus tard. Mais en attendant, je vais aller fermer la porte de mon bureau parce que mon con de chien est rentré et a laissé un courant d'air, évidemment, parce qu'il peut pas fermer la porte, il a pas de pouce, donc je reviens.
Ah, parce qu'il a fait Gravelman, peut-être.
Voilà, donc
il a dû participer à Gravelman, Gravelman Paris, non ?
Hein ?
Il a perdu ses mains, il a dû participer à Gravelman Paris, c'est ça ?
Mais non, mon chien, alors pour être tout à fait franc, mon chien s'appelle Salomon. Rien à voir avec la marque de sport, c'est que simplement, bah, pour un chien, on s'est dit que c'était très très beau comme nom pour un petit animal. Et non, c'est pas du tout son objectif. Il a fait un semi-marathon avec moi il y a quelques années et c'est absolument tout. Et maintenant, il hurle sur le facteur, c'est son sport quotidien. Voilà. Ça, c'était la parenthèse canine. Avant de rentrer
c'est
plus
important.
C'est très important car j'aime beaucoup les petits chiens. Donc, avant qu'on aille plus en détail dans Gravelman et dans tout ce que tu as fait auparavant, Steven, bonjour, qui es-tu, que fais-tu, d'où viens-tu ? En quelques mots, hein. Va pas imiter Stéphane Brognard à me faire une présentation de 45 minutes. Ça, c'est parce que je sais qu'il écoute.
Je le ferai pas parce que je le fais à chaque fois et les gens en ont marre certainement. Mais non, je suis Steven Leyric, je suis aventurier professionnel. Alors, ça veut dire quoi aujourd'hui d'être aventurier professionnel? J'entends beaucoup dire, je suis explorateur. Moi, je me dis pas explorateur parce que je pense que Christophe Colomb, Vasco de Gama et compagnie seraient un peu mal à l'aise si je disais ça. Mais non, j'aime m'aventurer et j'en fais des films. J'essaie de transmettre au plus grand nombre à travers mes réseaux sociaux et puis après des documentaires qui sont vendus à la télé ou qui sont diffusés gracieusement sur soit sur YouTube, soit un peu partout, des festivals de films d'aventure, etc. Et donc j'ai des partenaires plus ou moins importants et j'essaie de m'aventurer. Donc j'ai été l'un des premiers à traverser l'Himalaya en mountain bike en intégralité, en fait l'Himalaya népalais, le Great Himalaya Trail. Donc il y avait 2000 km, 90 000 mètres de dénivelé positif. C'était à la télé en live sur France Info et il y a eu un film qui a été vendu à la chaîne Voyage. Et après, il y a eu un Paris-Dakar en 20 jours. Enfin, il y a eu quelques expéditions de ce type, quelques aventures, soit d'une semaine, soit de plus d'un mois à chaque fois, un peu partout sur la planète. Et aujourd'hui, j'ai créé Gravelman. C'était une idée que j'avais. Ça fait plus d'un an et demi, ouais, que j'ai ce truc dans la tête et puis je savais pas comment le glisser, comment le lancer. Et puis quand j'ai senti que ça tournait au vinaigre les mois de juillet, août, après septembre, ils annonçaient des espèces de confinements, des reconfinements, des trucs. J'ai dit c'est le pire moment, mais c'est le meilleur moment pour donner envie aux gens de dépasser. Du coup, bah, j'ai lancé ça un peu en mode homo ninja et puis j'ai pas compris comment, pourquoi. C'est un format qui est plutôt court pour de l'ultra endurance entre guillemets, mais très long pour des gens qui font soit du triathlon, soit du vélo classique. Et voilà, et puis ça répond bien. Ouais, il y avait plus de 80 personnes qui étaient à Roubaix dans une période horrible où l'avant-veille on m'annonce un couvre-feu plus un confinement sur les sur la métropole lilloise et la métropole parisienne. Du coup, j'ai fait un truc où ça partait de 2 kilomètres après la métropole lilloise et ça arrivait 2 kilomètres avant la métropole parisienne. C'était un Roubaix-Chantilly, donc voilà.
Ah, c'était pratiquement un tour de l'Oise en fait. Comme ça, ça te rappelait tes ça te rappelait tes jeunes années. C'était pas plus mal non plus.
Ah oui, je suis un ancien cycliste. Ouais, j'ai pas précisé, mais je suis un ancien cycliste. Je suis un ancien cycliste de élite, enfin de haut niveau, où j'ai couru en DN1, division nationale 1, donc le meilleur niveau amateur français pendant une dizaine d'années dans des équipes comme Nogent-sur-Oise, Villeneuve-Saint-Germain, Évreux. Enfin, j'ai couru à peu près partout en France et en Europe. Et voilà, j'ai gagné une course professionnelle et une cinquantaine de courses amateurs. Et j'ai commencé le vélo à 5 ans et demi. Du coup, c'est un petit moment que je pratique la bicyclette, disons. Et j'ai fait un peu le tour de ce qui existait dans ce monde associatif, fédéral, tout. Et puis après, j'ai été communicant pour des marques, des personnalités, notamment la Fédération française de triathlon jusqu'aux Jeux à Rio. Et j'ai pété un câble. Et voilà. Et j'ai décidé d'aller au bout de mes rêves après 120 jours au Népal et voilà. Et puis surtout quelques semaines de méditation en monastère qui m'ont permis de savoir que je voulais pas devenir moine bouddhiste tout de suite et que j'en étais pas vraiment capable. Donc voilà, c'est pas
voilà,
plus mal.
Je vais généreusement saisir la perche que tu m'as tendue. Ça voulait dire quoi, péter un câble?
Après ces années de haut niveau, en fait, j'ai déjà pété un premier câble en arrêtant le vélo soudainement après un championnat de France à Boulogne-sur-Mer où Eddie Seigneur, qui est assez connu pour avoir gagné sur les Champs-Élysées, et puis il a été 5 ou 6 fois champion de France de chrono, qui était mon manager, me dit après une course, après ce championnat de France, que j'étais un mec super sympa, mais que j'allais rentrer moi-même chez moi et qu'il me ramènerait pas parce que j'avais losé, quoi. Je m'étais loupé et j'étais blessé par ça. J'étais mal, et en fait, mais c'était une accumulation de trucs qui font que une accumulation de 10 ans de haut niveau où des gens te parlent comme si t'étais un soldat, quoi. Alors aujourd'hui, mes gravelman, là, je leur parle comme à des soldats, parce que je pense qu'en aventure, il faut arrêter des fois de réfléchir trop et puis d'essayer de mettre plein d'amour et tout, mais de foncer, quoi. Et là, en fait, c'est tellement dur le haut niveau quand tu te loupes une fois, deux fois, mais en fait, dans le vélo, tu perds tout le temps. Tu vois des gars qui gagnent 10 courses par an, 5 courses, même 3 courses par an. Chez les pros et les amateurs, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Et du coup, faut accepter 1) de perdre tout le temps, 2) de se faire humilier par des directeurs sportifs qui te parlent dans l'oreillette comme s'ils jouaient à la Game Boy. C'est pas une généralité, mais ça existe. Et 3) un truc qui est assez humain, c'est-à-dire que tu gagnes pas d'argent, en fait, dans le vélo. Et je veux dire, si tu gagnes pas d'argent, tu peux pas vivre, quoi. Et tout en t'entraînant entre 20 et 30 heures par semaine. Donc ouais, c'était dur et ouais, après cet arrêt brutal, j'ai repris des études, j'ai fait un master, j'ai recommencé à travailler avec le haut niveau, j'ai travaillé pour Skoda, j'ai travaillé pour Compressport, enfin, donc très proche du haut niveau, hein, parce que c'était sur le Tour de France, et je revoyais les mêmes mecs qui couraient avec moi, les mêmes discours, les mêmes mecs qui me disaient qu'ils étaient malheureux. Et qui sont mes amis, hein, dont certains qui sont au Tour de France et qui sont leaders dans des équipes du pour certains du Pro Tour d'ailleurs. Mais voilà, moi je pouvais pas accepter de ça. Et après les Jeux à Rio, où j'ai vu beaucoup d'athlètes soit qui avaient perdu, soit qui avaient fait 4e des Jeux, ou même des gens qui avaient fait podium qui étaient hyper déçus, bah, j'ai dit faut que je sorte de là parce que je vais repéter un boulard. Et j'ai fait deux burn-out l'année des Jeux quand même, notamment après les Jeux. Et je me suis dit que c'était peut-être pas le système qui allait mal, c'était moi, et je me suis barré, ouais, je suis parti au Népal, ouais. Mmh. Bah, c'est ça, péter un câble, mais
Bah, t'as le droit.
C'est assez pour tout le monde.
Chacun a le droit. Hein. Chacun sa raison. Toi, tu supportais plus le haut niveau ou les remarques blessantes des DS peu scrupuleux. Là-dessus, je te renvoie à l'épisode que j'ai fait avec Marion Sicot. C'était pas spécialement mieux. Et on a parlé tous les deux après en off. On a parlé de la détresse des coureurs et certainement de la consommation effrénée d'antidépresseurs. Je pense que tu pourrais en attester aussi. C'est pas une nouveauté. C'est sans être un secret, c'est presque un tabou quand même.
Ouais, somnifères, antidépresseurs, faire la fête. Voilà, comme dans beaucoup de professions, entre guillemets, à pression, même si quelqu'un qui travaille à l'usine tous les jours, qui a la pression de son chef, voilà, je pense que c'est plus dur que d'être cycliste sous la flotte, même l'hiver, à s'entraîner. Mais c'était le truc de, j'ai fait ce choix-là, j'avais des rêves, et en fait, mes rêves, ils ressemblent pas vraiment à ce que je suis en train de vivre. Du coup, peut-être c'était pas exactement ça mon rêve. Et je pense que si j'avais signé chez les pros, tu vois, ce que bon, j'étais vraiment pas loin de le faire, tu vois, il y a 2 ans où quand je gagne le Loir-et-Cher notamment, j'étais très proche, quoi. Même si j'étais dans une équipe très très forte où 80% des gars sont passés pro, ah, tu vois, évidemment, un Arnaud Demare, je pense que les équipes n'ont aucun regret à l'avoir fait signer à ma place. Et je pense que ces gars-là étaient faits pour ça. Je ne suis pas du tout fait pour le haut niveau. Et voilà, quoi. Mais ouais, anxiolytique, les dépresseurs, les somnifères, enfin, les conneries. Et puis faire des conneries, quoi. Parce que t'es un espèce de moine attaché, où t'as pas le droit de bouffer, t'as pas le droit de boire, t'as pas le droit de rigoler, t'as pas le droit d'avoir forcément beaucoup d'amis parce que comment tu veux avoir des amis quand t'es chiant, en fait, tu vois, t'as rien à dire, tu racontes des choses que les gens comprennent pas, et puis c'est chiant, un mec qui te parle que de courses, de trucs. Aujourd'hui, les mecs sont beaucoup plus cultivés, hein. Je parle notamment du haut niveau, mais même en dessous, à un plus petit niveau chez les amateurs, il y a des mecs qui regardent autre chose. Hier, j'ai reçu un message d'un mec de DN1, enfin, je reçois toutes les semaines un gars qui veut faire le tour du monde dans 2 ans, machin, arrêter sa carrière. Ça, j'en ai tout le temps, quoi. Des Pierre Roland et tout ça qui m'envoient des messages de soutien. Parce que, il y a 10 ans, faire du vélo, en bikepacking, enfin, ça n'existait pas, mais en gros, avoir des sacoches sur les côtés, c'était un truc de vieux de 75 ans, voilà. C'est pas du tout une critique, hein. Mais pour ce milieu-là, on se mélange pas, en fait. Et aujourd'hui, c'est devient stylé, quoi. C'est devenu un truc cool. Et voilà. Du coup, je suis un peu un mec cool pour eux. Parce qu'ils se disent, on pourrait être un peu heureux aussi, je pense. Et voilà. Mais il y en a qui sont hyper épanouis, comme m'a dit Jérôme Cousin un jour. Mais moi, je suis heureux, hein. Ouais. Et ce jour-là, je l'ai regardé et je lui dis, bah, respect. Enfin, on s'est mis une caisse tous les deux et on a discuté parce qu'il me dit, il y a des trucs que j'ai pas aimé. Il est venu à une de mes conférences à Lyon. Il me dit, toi, t'as été franc tout à l'heure. Bah, lui, c'est la même chose. Il a été franc pendant 2 heures. C'est pour ça que j'adore Jérôme. Et au fur et à mesure des 2 heures, je dis, OK, t'as raison. On peut être heureux en étant sportif de haut niveau. Donc voilà.
Bah voilà. C'est vrai que les sacoches et tout, c'était un truc de cyclotouriste. Le bikepacking, tu le sais mieux que moi, n'a rien inventé. Mais de voir des mecs de 25, 30 ans s'élancer pour de longues aventures ou de longs périples ou des week-ends un peu allongés, ça n'existait pas trop avant. Et il y avait vraiment cette scission entre les coureurs, avec les cyclos. Et quand on voyait un mec avec les sacoches, on rigolait quand même. Mais aujourd'hui, le meilleur exemple, c'est Jérôme Cousin, parce que c'est lui qui a initié ça pendant le confinement, de rouloter au Portugal alors que tout le monde était bloqué. Et il y en a d'autres. Enfin, c'est même pas lui qui a initié, je raconte une grosse connerie. C'est Thomas De Rendt, après le Tour de Lombardie, qui était rentré à vélo. Et certainement d'autres l'ont fait avant et qu'on ne le sait pas. Et...
Ah ouais, il y en avait d'autres. Ouais, j'avais un partenaire que t'as maintenant là de pochettes de bikepacking et ils avaient deux coureurs pro tour, hein. Et voilà, ils avaient deux coureurs pro tour en fait en Italie. C'était un truc c'est un truc assez normal. Ils prenaient leur sacoche et ils se barraient, ils allaient faire 1000 bornes et puis ils revenaient. Mais Non, les Américains aussi, mais ça c'est pas le même spirit quoi.
Ouais.
Il y avait déjà 2-3 coureurs de la Drapac Porsche qui sont maintenant ils sont passés chez Garmin et maintenant voilà, c'est les Rafa Boy qu'on voit sur toutes les vidéos. Eux, ça fait presque 10 ans quoi qu'ils sont dans ce truc là de l'aventure à vélo quoi. Qu'il m'a dit le coureur hier, j'ai envie de faire ça avec Pochette mais faire ça vite quoi.
Bah, y en a...
pour faire 40 000 bornes.
C'est sûr que ouais, Education First ont délégué quelques coureurs à faire ça et ils y arrivent super bien. Je serais curieux de voir ce que va faire. J'ai oublié son nom mince. Le coureur français qui a signé il y a 3 semaines chez Education First de Manosque. Mince. Julien. Je roule avec
quand...
Julien Elfares. Je roule avec quand je vais chez mes parents. Je serais curieux de
Julien,
savoir
s'il
voulait
laisser ça. Des 200-300 bornes. Julien, vous êtes déjà des 300 bornes. Je me souviens quand on était coureurs, parce qu'on courait ensemble quand il était à Marseille. Il faisait déjà des 300 bornes et on rigolait parce qu'on disait ouais, il va être cramé. Et puis en fait, en 2 ans, il est passé quoi. Enfin, il est passé pro. Il avait peut-être un peu raison.
Faudrait en parler avec lui parce que tu le sais, son parcours a pas été si linéaire que ça et j'aimerais faire un épisode avec lui pour parler des difficultés parce que j'ai l'impression qu'il a tout connu. Il a connu les équipes blanches quand il avait pas d'équipe. C'est quasiment la consécration en signant chez Education First. Mais il a jamais renoncé, Julien. Donc ça aussi, c'est extrêmement respectable. Et également, je sais pas si tu suis, j'ai oublié son nom, je connais que son pseudo Instagram, Bahamon Longbottom, le pisteur, et qui fait à la fois la
moustache boy.
Ouais, la moustache avec ses yeux clairs, il est super beau en plus. Et qui fait aussi des longs trucs gravel, mais à une vitesse ahurissante. Et c'est hyper drôle de le voir sur Instagram en stories faire des soulevés de terre, des squats à 300 kilos et après de le voir faire vraiment gravel au fin fond de l'Arkansas ou mieux de poncer une table ou de découper du bois à la tronçonneuse. Et là, tu te dis, il y a vraiment un truc à creuser. Et pour terminer, pendant le confinement, le premier confinement, là, tu viens de me dire que depuis 10 ans, ça a changé, qu'il y a des coureurs installés qui le font. Mais je note que ça change aussi un tout petit peu chez les plus jeunes parce que pendant le premier confinement, Hugo Page, qui est à la Groupama, à la Conti Groupama, m'a écrit pour me demander quand est-ce qu'on partait en balade ensemble et que lui aussi a envie de partir sur un truc d'une semaine. Donc même chez des coureurs de 19-20 ans, il y a déjà cette envie d'aventure qui émerge tout en gardant le côté pro de devenir un vrai pro, si on peut dire. De faire du vélo comme ils l'entendent en fait. Et c'est vraiment là la passion du vélo qui s'exprime et pas juste gagner des courses pour le plaisir de gagner des courses ou être pro pour dire qu'on est pro. C'est vraiment la passion du vélo qui s'exprime là.
Ouais, la génération qui arrive plus généralement, surtout, en fait, ça concerne tous les pans de la société. Évidemment, quand t'as un peu plus de fric, c'est plus facile de réfléchir comme ça. Mais ils testent des jobs. Si ça leur plaît pas, non, je me casse quoi. Mais mec, t'as un contrat à 10 000 par mois. Non, mais je suis pas heureux en fait. Du coup, ils changent. Et ça, j'en ai beaucoup. Hein, des gens, même dans le monde entre guillemets du travail normal, des gens qui me disent non, mais c'est un poste en or. Ouais, mais je m'en fous. C'est le truc, c'est d'être heureux dans la vie. Et voilà, ouais, il y a un espèce de truc de je fais ce que j'ai envie de faire, quoi, j'ai envie d'être heureux. Et il y a plus en plus de gens qui font une année, 2 années sabbatiques ou 3 pour faire soit le tour du monde, soit des voyages initiatiques, quoi.
J'ai découvert, parce que j'ai une grande passion dans la vie, tout le monde ne le sait pas, mais enfin, c'est normal, tout le monde ne le sait pas, je suis un inconnu. En lisant la bio complète de Metallica, j'ai découvert qu'au Danemark, ils ont une tradition qui est de se donner une année sabbatique quand on ne sait pas quoi faire. Et il s'avère que le batteur de Metallica est danois, d'origine danoise. Et quand il ne savait pas quoi faire exactement de sa vie, est-ce qu'il s'orientait vers le tennis professionnel parce qu'il avait le niveau pour être tennisman pro, ou alors vers la musique parce c'était un ardent métalleux, et ses parents lui ont dit « tu vas prendre une année pour réfléchir et pour savoir ce que tu vas faire ». C'est pas mal ça quand on a 18-20 ans.
Ouais. Je crois qu'en Allemagne, il y a un processus comme ça aussi, qui est pas aussi limpide, mais il y a un truc comme ça. En Australie, t'as le droit, c'est une année tous les 5 ou 10 ans, où ta boîte, elle te laisse un an pour, en gros, faire un point sur tout et repartir. Ouais, il y a Amérique du Sud, il y a un truc comme ça, je sais plus quel pays. Enfin, à chaque fois que je rencontrais des gens au Népal, ils m'expliquaient parce que je les croisais tous et ils me disaient, bah non, on a le droit à un an. Et moi, je les regardais comme ça, mais nous, prendre un an en France, la vie, elle est finie, quoi.
Déjà,
tu trouves pas un job après tes études.
C'est râpé. Et puis, déjà, quand tu bosses en entreprise et que tu pars à 17h30, les gens te demandent si tu prennes ta journée. Alors, prendre un an de voyage, putain. C'est de la science-fiction.
C'est fou, quoi. Alors que le patron d'Amazon, il a dit un jour que c'était vacances illimitées, mais par contre, il fallait faire le taf, quoi. Et beaucoup de boîtes qui gagnent énormément d'argent, notamment, je sais des grosses boîtes comme Facebook, etc., pratiquent ce genre de truc. Je sais que Strava aussi pratique ce genre de choses. Enfin, à plus petite échelle, mais je sais que ça existe. Où les gars, ok, bah nous on est capable de se prendre 3-4 jours à un appart à la montagne, on se met à 10 dedans et on bosse, mais on joue en même temps, quoi. On va dans la montagne puisque notre job c'est de travailler dans le sport, donc on fait du sport. Voilà. Les cordonniers qui savent pas réparer les chaussures, tu vois, c'est mieux de changer de métier, quoi. Et c'est très américain, je trouve, comme philosophie. Bon, après il y a des gars qui dorment pas et qui dorment 2 heures par nuit aussi, hein, dans la Silicon Valley, hein, mais
Mais ouais, qui prennent des microdoses de LSD pour être plus efficace. Il y a pas. Tu savais pas ça?
si, mais tu sais, moi je cours avec des mecs qui prenaient des somnifères avant les chronos pour pas avoir peur de prendre les virages à 60 sur le guidon. Donc je suis pas étonné par rien. Moi j'adorais ce que j'appelais les rôles. Cœur cycliste qui était, enfin il y en avait pas beaucoup, mais des gars qui avaient une personnalité, et il y en a un peu moins parce que tu dois être quand même un peu plus lisse, quoi qu'on a le champion du monde qui est pour moi avec Peter Sagan, mais je sais un petit peu ce qu'est Julien. Les mecs, c'est il est transgressif à mort et puis il est champion du monde quand même, quoi.
Ouais, donc voilà. On en parlera tous les deux en privé de ça, si tu veux bien. Ouais. J'ai quand même l'impression que tout ça, cette envie générale, en tout cas qui grossit parmi, on va dire, la population française, cette soif d'aventure, je sais pas si on peut parler de mal-être ou en tout cas, oui, plutôt cette soif d'aventure, cette envie de repousser des limites, d'aller voir ailleurs, peut-être de rêver d'accomplir ses rêves. D'une certaine manière, c'est quand même du pain béni pour toi parce que tu leur amènes sur un plateau une épreuve qui, le temps d'un week-end, leur permet de se sentir des aventuriers.
De se sentir vivant, en fait. Les gens, ils se sont rendus compte, mais notamment depuis le confinement, mais c'est depuis quelques années, je trouve, mais depuis le confinement, là, il y a eu un truc. J'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit merci, voilà, qui sont intéressés un peu plus à ce que je faisais aussi, à ce que je faisais plein de mecs, hein, à ce qu'écrivaient d'autres aventuriers, d'autres gens. D'ailleurs, un mec comme Mike Horn, il a été hyper médiatisé durant cette période parce qu'il a vraiment poussé sa chaîne YouTube parce que les gens en avaient besoin. Mais les gens, ouais, ont besoin de s'aventurer, de se sentir vivant dès le plus jeune âge. Et oui, Gravelman, moi, je suis pas en concurrence avec tout ce que je vois sur le marché des transcontinentales, des biking man, de toutes les courses qui existent. Moi, c'est, enfin, Eric Le Blacher, là, qui fait premier sur la route à Paris, il a mis 12 heures. Je sais que les premiers vont mettre entre 10 et 12. Et je sais que les derniers, moi, je leur laisse 50 heures normalement. Et je suis là pendant 3 jours, 4 jours. Hein. Si le gars, il arrive mardi, je suis là, quoi. Mmh. Du coup, c'est tu t'aventures, tu vis ton truc, ton aventure à toi, au rythme que tu veux, avec une certaine limite. Et tu vas au bout d'un petit rêve d'aventure qui te fait te sentir putain de vivant. Et quand t'arrives le lundi au boulot, si le gars, il te raconte, bah ouais, je suis allé me balader avec ma femme... Tu peux même pas lui dire, bah ouais, moi j'ai fait ça, c'est parce que tu es dans un monde tellement à côté du truc, tu es tellement fier, là, ils sont tous en train de m'envoyer des messages, enfin, c'est depuis les arrivées, mais ils racontent tous leurs anecdotes en arrivant au boulot, des mecs qui dirigent une boîte qui, il y avait de la boue collée sur les murs de tous les bureaux parce que le gars, il était tellement cramé qu'il a dormi dans le couloir de ses bureaux. Et d'autres qui sont rentrés à l'arrache chez eux, leur femme, elle a regardé comme ça, mais qu'est-ce qui s'est passé, ça a été, alors qu'il y avait un tracker et tout, mais, et les gars étaient heureux, quoi. Ils sont jamais fait autant mal à la gueule et ils sont encore plus contents, quoi. Et ça, je permets ça, mais d'autres permettent ça aussi. Et je trouve ça bien de proposer des trucs, comme tu dis, ouais, un peu accessibles, le temps d'un week-end, sortir de ta life et y revenir en ayant vécu un truc fort. Et voilà, ça un peu tous les mois. Donc voilà, c'est un peu ça, Gravelman. Après chacun son épreuve. Hein. Toi, tu rentreras à la trace gravel peut-être en 20 heures. Certains la rentrent en 50, donc 60, tu vois, mais.
C'est pas une donnée pertinente, le nombre d'heures. Chacun le fait avec ses moyens. On a tous des vies à côté. Bon.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que le mec qui le fait en 20 et a plus de valeur ou est plus respectable que le mec qui le fait en 60, je suis pas sûr. Les mecs qui font des...
c'est ça que je suis en train de dire. C'est en fait, tu vois, par exemple, Eric Le Blacher est arrivé et les 3-4 premiers sont arrivés, ce que j'appelle les premiers arrivants, mais moi il y a pas de classement, hein, c'est pas le championnat de France ou le championnat du monde de quoi que ce soit. En fait, le truc que je leur ai demandé, c'est supporter les autres. Et en fait, j'ai regardé le WhatsApp commun. Ils avaient déjà envoyé des messages aux participants. Et en fait, Eric et les autres, ils ont encouragé les mecs, mais jusqu'au bout, quoi. J'ai autant de plaisir, presque plus, à voir j'ai vu des derniers arrivants dimanche, arriver à 20h30. Et ils avaient les larmes aux yeux parce que je sais qu'ils ont passé plus de temps sur le truc. Ils en ont chié à mort. Ils ont vécu encore plus d'aventures. Et puis c'est ouais. Non, moi il y a pas de ça, il y a pas de premier, il y a pas de dernier, mais par contre tout le monde rigole autant, tout le monde a vécu un peu les mêmes trucs et puis des anecdotes, des machins, enfin c'est un peu une famille, je pense, comme beaucoup de courses d'ultra, mais là c'est très familial, quoi, c'est très on se connaît pas, mais on est potes à la fin, quoi.
Voilà, le vélo, ça crée des liens. De toute façon, quand tu souffres quelques heures avec quelqu'un, ça remplace des semaines de vie commune. Souffrir à vélo, ça rapproche quand même.
Ouais, 60 heures, ça fait déjà un bon collègue de boulot, quoi. 60 heures dans les forêts, dans la neige, sur la glace, un single avec... Tu vois, moins 5 degrés, putain, j'ai crevé. Oh non, pas maintenant, s'il te plaît. Night, tu vois.
J'ai été admiratif des mecs sous la neige. Vraiment, ça m'arrive pas souvent de clamer mon admiration pour ce que je vois sur les réseaux. Mais de voir les mecs quand même sous la neige et, bon, évidemment être content, mais en même temps, ils avaient payé pour ça et c'était quand même la moindre des choses d'être content. Mais quand même de... C'était tellement facile de bâcher, de dire « Bon, les mecs, allez vous faire foutre. Moi, je prends un TER, un métro, je rentre à la maison. » Non, ça, les mecs s'arrêtaient pas. Et ça, c'est vraiment admirable, en tout cas.
Mais pour la petite anecdote, il y a Guillaume. En fait, j'avais un CP1. C'était le ravitaillement, le seul et l'unique. Parce que je dis qu'il n'y a pas de ravitaillement, mais il y a un petit truc où ils peuvent bouffer des soupes, des pâtes, un peu à bouffer des bananes. Enfin, les trucs qu'on avait quand on faisait du vélo il y a 15 ans, quoi.
La rando du dimanche, quoi.
Voilà. Sauf qu'ils arrivaient, ils étaient donc chez mon sponsor Gears, là. Et en fait, Guillaume Giroux, qui est le fondateur de Gears, il m'appelle et il me dit, t'as arrêté là, le truc, là. Je dis, c'est-à-dire, là, je suis en bagnole, je suis à 27 km/h. Je dis, Guillaume, est-ce que tu penses vraiment que je peux les arrêter, là? J'arrête personne. Ils font ce qu'ils veulent. Et je pense qu'il y en a 5-10% qui vont bâcher, mais parce que ça glisse trop, pas parce qu'ils ont trop mal, quoi. Et lui, il était impressionné, il était halluciné parce qu'il était ancien coureur pro, coureur élite longtemps. Et il me dit, c'est des grands malades. Il était, en fait, il y a 2-3 anciens pros qui étaient là, qui travaillent chez eux, des commerciaux, qui travaillent chez DAG. Les mecs étaient hallucinés, quoi, parce qu'ils voyaient des vélos de 40 kilos passer avec des sacoches. Le gars, il avait le réchaud dans le truc. truc, la tente, ouais, je vais dormir en forêt de Rambouillet. En fait, c'est transgressif, mais c'était dingue parce que le gars, il a donné une leçon à tout le monde. Ce gars, il avait un vélo il y a 35 ans. Je pense que, tu vois, je pouvais pas soulever l'arrière de son vélo pour le mettre sur le rack à vélo, quoi, pour se dire, pourtant, j'en ai soulevé des bikes, mais là, je me dis, bordel, mec, qu'est-ce que tu nous fais, quoi? Et du coup, tu vois, ça crée une espèce d'affection pour ce gars, mais pour tout, quoi. Mmh. On est tous égaux. Et les gens se croisent, enfin, tu connais ça par cœur, mais se croisent sur la route, et tu dis, putain, mais on s'est vu hier, non, on te rappelle pas, et la personne, elle revit parce qu'elle dit, putain, ah, j'ai des copains, tu vois. Et, ouais, c'était comme ça tout le temps, et la neige, ouais. Moi, tu sais, quand t'es de l'autre côté de la barrière, t'as peur, quoi. Je flippais parce que je dis, putain, j'ai fait trop dur, trop engagé. J'avais promis à celui qui passait tout en vélo un cadeau, tu vois, en rigolant, mais je savais que personne passerait. Mais je pense que au niveau temps, il y en a qui ont marché 2 heures, quoi, parce qu'ils avaient pas le bon matos, parce qu'ils avaient pas le bon truc, parce que le gravel américain sur des autoroutes de, tu vois, de sable tamisé, c'est pas vraiment le Vexin, tu vois. Et ils ont reçu, ouais, ils ont bien reçu le message de ce que je considérais comme gravel. Après. Je ferais moins dur à certaines destinations. Et... Bon, le Mont Blanc, je promets pas que ce serait hyper facile, tu vois, mais non, chacun son truc, chacun son projet. Je l'écris sur le site, mais je le dis à tous en privé. Après, je dis chacun son projet, chacun son truc. Ceux qui veulent faire la compète, en fait, soit ils s'éliminent eux-mêmes, soit ils n'ont pas compris pourquoi ils viennent. Moi, je m'en fous du 1, 2, 3, 4, 5, 7. Je veux que tout le monde finisse et que tout le monde soit fier de lui. Et puis voilà.
Je pense que je vais me le faire le Gravelman Mont Blanc. Parce que déjà, j'ai été particulièrement échauffé par Clément Mahé, que tu connais bien, si j'ai bonne mémoire.
Ah ouais, très, très bien. Hein, c'est un très
oui, il me l'a dit que vous étiez très pote. Et déjà, ouais. Il m'en a parlé dans l'épisode que j'ai fait avec lui et j'ai passé un super moment avec Clément et je lui ai promis une pizza quand je descends à Annecy. Donc, je tiendrai parole parce que j'ai appris beaucoup grâce à lui. Et en plus, il m'a vraiment donné envie de le faire, ce tour du Mont Blanc. Et sachant que tu fais ça, effectivement, ça me tente bien. J'aimerais juste savoir. Donc là, t'as fait Gravelman Paris. C'était une boucle, globalement une boucle autour de Paris, c'est ça?
Ouais.
Ouais.
Ouais, là, c'était Gravelman Nord. En fait, je pense qu'un an sur deux, je vais faire un Nord, un South. Tu vois, là, ça, on partait, on prenait le canal de Lourdes, après on cherchait Ermenonville, Parc Astérix, et c'était un peu château, quoi, château de Chantilly. Après, ils allaient chercher Saint-Martin-du-Tertre, ils arrivaient chez Dag, et après le Vexin, là, il y avait des singles pour arriver à la Roche-Guyon. Quand je sais pas faire de vélo, tu descends, et il y en avait qui montaient à genoux et tout, et puis après direction... Rambouillet, la vallée de Chevreuse. Ouais, parce que je leur ai dit, tout passe en vélo. Il y en a qui m'ont envoyé des lives et tout. Parce qu'il y a obligation. Et ça fait partie du jeu. Ça fait partie des règles. Tu vois, c'est pour ça que c'est pas une course. On s'en fout de la course. Il y a un selfie obligatoire 10 fois dans l'épreuve. Et je peux te dire que les premiers selfies au parc de la Poudrerie, le long du canal de Lourdes, j'avais les larmes aux yeux. Parce que j'étais inquiet du départ et tout. Et je voyais les premiers selfies, la gueule des mecs, quoi. Des gars, ils avaient les lunettes de soleil, ils m'envoyaient, putain, je comprends pas, ça fait 2 fois que je crève. Ben, enlève peut-être tes lunettes de soleil, ça ira mieux parce qu'il est 6 heures, là, tu vois, il va faire nuit dans 2 heures. Tu vois, le gars changeait sa chambre à air avec les lunettes de soleil.
Chambre à air pour le parcours route ou gravel, fais-moi peur.
J'ai eu 80% de chambre à air, même sur le parcours gravel, hein.
Oh là là.
J'ai eu du champion de Eric Le Blachier qui m'envoie ses selfies, machin truc, aux autres concurrents qui m'envoient, mais qui vivaient. Il y en a qui, moi, je m'en fous du drafting, du truc, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. S'ils veulent rester à 10, ils restent à 10. De toute manière, ils vont, il y a un moment donné où ça va changer. Celui qui arrête dans une boulangerie, celui qui s'arrête pas. Et ils m'envoyaient, il y en avait qui se trouvaient des potes tous les 10 bornes. Et je dis, mais vous faites quoi? C'est une manifestation de, bah non, mais ils sont trop gentils, je les adore, eux, mais tu les connais d'où? Et je dis, putain, mais ils ont compris, en fait. Tu vois, ça faisait des mini pelotons de 5, 10. Et je trouvais ça génial parce que sous la neige, comme tu le sais, il vaut mieux être un peu accompagné, quoi. Mm. Et t'avais des gens expérimentés, des gens moins expérimentés, des gens qui n'avaient jamais fait plus de 70 km et ils ont fini le gravelman quoi. Et notamment la trace gravel avec des vélos, mais quand je te dis pourri, c'est pas la critique, ils avaient des marques, des machins, mais des vélos vraiment vraiment où tu vois, je ferais pas 100 km en engagé avec quoi. Et il y en avait un qui avait son étrier, il était presque accroché à son guidon, son étrier avant, parce qu'il avait perdu son frein avant à Buc, après la forêt de Rambouillet. Il voulait me buter, quoi. Alors que c'est un ami proche, quoi. Il me dit, Steven, tu nous as dit que c'était roulant. Je vous promets, les gars, que sur les rocos, c'était roulant.
Il faut jamais croire. Alors, à tous et toutes qui écoutez, quand un organisateur vous dit, t'inquiète, c'est roulant, il ne faut pas le croire. Ça veut dire que, en langage d'organisateur, ça veut dire, moi, j'habite ici, je connais la région, et je me rends plus compte de la difficulté que je propose. Donc, j'ai l'impression que c'est roulant parce que j'arrive à marcher à côté de mon vélo. Mais en fait, c'est pas vrai. Il faut pas les croire. Ce sont tous des escrocs. Ce sont tous des escrocs. Et Steven, j'ai pas encore roulé une de tes épreuves, mais d'expérience, notamment avec l'infâme Romain dans le sud, je peux te dire que quand c'est roulant avec eux, bah, c'est pas roulant du tout et que tu pousses. Et ça passe éventuellement
non, là,
à vide.
Pas prévu, hein.
Ça passe à vide et ça passe quand on fait des recos et qu'on fait pas le parcours intégral et qu'on passe en injection. Mais quand t'as tout le parcours avec le chargement sur le vélo, ça passe plus du tout. Donc non, ne les croyez pas. Est-ce que tu penses que, forcément, ça va participer, entre guillemets, à pas augmenter le niveau, parce que ça veut rien dire, mais améliorer la conscience des pratiquants gravel en France de ce qui exige le gravel en France? On est bercé par certains médias ou par ce que l'on voit sur les réseaux sur ce qu'est le gravel ou devrait être le gravel dans l'Arkansas, dans l'Iowa ou à Arles, et c'est pas vrai. Quand tu roules à Arles, à Roubaix, à Brest, dans le Vexin ou en Alsace, limite c'est pas le même vélo, c'est pas le même vélo, c'est pas les mêmes roues, c'est pas les mêmes pneus, c'est pas les mêmes développements. Donc faut arrêter un peu avec cette uniformisation à faire croire que le gravel c'est ça et ça peut pas être autre chose. Mais en revanche, tu viens de le montrer avec le Gravelman, ça peut être très difficile si on se pointe avec un vélo pas tout à fait adapté.
Ouais, il y a ça. Mais en même temps, j'ai vu des gens avec des vélos, je leur donnais même pas 20 bornes, et les concurrents, certains les regardaient, tu vois, ils arrivaient avec des 3T Exploro à 10 000 et tout, l'autre, elle arrivait avec un vélo Between à 199 €. Je pense que le vélo, il faisait 40 kilos. Et elles ont été jusqu'à Chantilly. Après, elles ont continué. En fait, il y a des gens qui sont vraiment battus, sauf des gros bris matériels. Et voilà. Et ça aide quand c'est vraiment boueux et le froid, ça gèle tout. Du coup, c'est la merde. Mais j'ai vu tellement de choses hyper étonnantes que j'ai vraiment beaucoup de respect parce que j'étais en panique parce que je voyais les trackers, je voyais les vitesses instantanées 2,5 km/h, je dis putain, c'est vraiment con, parce qu'en fait à Roubaix ils m'ont énervé parce que je leur ai fait Paris-Roubaix à l'envers entre autres, mais après un retour presque à Paris et ils m'ont engueulé parce qu'il y avait le vent de face, j'ai pas fait exprès, il y avait un peu de pluie, bon c'est comme ça, mais ils m'ont dit ouais, c'était un peu roulant quand même. Ah ok, bon bah si vous me dites ça à moi il y a aucun problème, hein. Donc je les ai un peu punis quoi, ils ont pris pour ceux de Roubaix, mais ouais il y en a deux trois qui m'ont dit avant de partir je montrais les vidéos et je voyais les commentaires sur les réseaux c'est pas gravel quoi, et moi je souriais parce que je dis, mais mec, tu parles d'un truc, c'est le gravel, c'est le trail running de demain. Alors, s'il n'y a pas de fédération, pas de règles, aujourd'hui, le trail running, tu peux faire l'éco-trail de 30 bornes ou de 15 bornes et tu peux aller jusqu'à des courses de 500 km, quoi. Tu vois, tu fais la Swiss Peak 360, si t'as fait l'éco-trail pour préparer ça, ça peut te faire un peu mal au canne, quoi.
Ouais.
Et ouais, chacun sa définition, chacun son truc. Moi, je viens du cyclocross aussi, donc moi j'ai toujours un truc, je dis toujours la même chose. Hein. Ouais, ça passe quoi. Et après, s'ils me demandent, je dis ouais, c'est un peu rythmé. Après, ils me regardent et ils disent ok, vas-y, laisse tomber, j'ai compris.
Ça passe deux, trois fois. Ça passe toujours.
Ah ouais.
Ça passe toujours. Bon, des fois, ça passe moins bien.
Sûrement, chez Compressport, c'est C'est mon surnom chez Compressport, c'est ça passe grave, quoi, parce qu'ils avaient fait un fil quand j'avais fait deux fois l'UTMB, tu sais, avec le vélo, ouais. Et pas le TMB, tu vois. Et j'ai fait deux fois le truc et les gens me disaient mais c'est un record du coup. Bah je pense que personne n'a tenté, quoi. C'est pas trop d'intérêt de le faire et tout, mais moi j'adorais faire ça, montrer c'est possible aussi de faire des courses très engagées à vélo et en plus c'est un tour rigide, tu vois. Mais ouais, ils avaient créé un truc, ça passe grave, ils voulaient faire des stickers et tout. Ouais, je pense que ça passe. Ils regardaient mais ils disent mais t'es un grand malade, mec. Tu vois, l'Himalaya, pareil, ils disaient ouais, ça passe. C'est mon Sherpa, il disait ça dans l'Himalaya. Possible. Et pour moi, possible, ça veut dire ça passe. En népalais, possible. Donc ça passe, c'est bon. Tu vois, les népalais, ils diraient que c'est pas du mountain bike, quoi. Parce que le mountain bike au Népal, c'est du vélo pour la montagne, c'est pas du vélo pour rouler dans les rues, quoi.
Est-ce que tu trouves que peut-être on se met trop de limites ou qu'on est trop embrigadé dans une idée, des idées préconçues de telle chose, ça doit être comme si ce truc-là, ça doit se faire comme ça, on a toujours fait comme ça, l'usage veut que... Et on s'enferme dans un moule sans chercher à être, comme tu disais, transgressif ou disruptif, ou de simplement s'amuser à faire différemment pour le plaisir de, pardon pour la vulgarité, de faire chier le monde.
Ouais, ça c'est sûr. Bah déjà tenir une épreuve dans cette période, c'est du ninja. Hein, c'est clairement, je suis en mode ninja Che Guevara, quoi, parce que bon, t'imagines bien que tout ça c'est très compliqué. Et voilà, mais c'est la vie, c'est faire, quoi. C'est faire des choses et arrêter de prendre le temps de critiquer, de commenter, de faire des polémiques sur des trucs, ça c'est gravel. En fait, je vois les forums et je respecte, parce que moi j'aime bien voir les messages des trucs, parce que je vois un peu ce que sont les communautés. Mais même pour moi, pour mes expéditions, je vois ce qui plaît un peu, quoi. Et je vois tous les gens qui arrivent avec, ils veulent le je sais plus quoi. À un moment, tout le monde voulait le triban, je sais pas quoi là. Et je voyais les commentaires de gars qui se faisaient déboîter. Donc c'est arrivé à peu près 40 fois par jour. Donc voilà, et qu'est-ce que doit faire un Arnaud Demare comparé à un gars qui fait du cyclotourisme? Il doit lui dire que c'est une grosse merde, et que doit faire, tu vois, ainsi de suite. Moi, je pense qu'on est tous égaux. Ce qu'on aime, c'est faire du vélo. On aime s'amuser avec un vélo. Moi, aujourd'hui, je permets juste de rêver un peu à travers ce que je fais, mes expés et tout. Et là, ce que j'ai eu envie de faire, c'est dire, maintenant, c'est à vous, quoi. Faites-le, quoi. Quand quelqu'un arrive et me dit, au briefing, mais toi, ça serait quoi tes conseils? Je dis, bah là, il faudrait vraiment beaucoup de temps. Je pense qu'il te faudrait une semaine pour que je te donne 1000 conseils, mais j'ai pas besoin de te donner des conseils, tu vas comprendre tout seul, quoi. Parce que la vie, c'est expérimenter, c'est prendre des risques et c'est tenter. Et c'est pas, en fait, c'est gravelman, c'est juste la petite porte d'entrée vers l'espèce de bikepacking engagé, très engagé sur le Mont Blanc, je pense, un peu moins sur un Île-de-France, tu vois, je pensais que ce serait le plus facile. En fait, ça a été une Polar Expedition
T'es pas au bout de tes peines, hein, parce que l'Auvergne, c'est au mois de mai, c'est ça?
Auvergne, c'est 4 juin.
Ouais, bon, ça va, t'auras passé la période critique du mois de mai en France. Le mois de mai, c'est la Toscane, c'est ça? Ou c'est avant? Je sais plus.
Avant, ouais.
J'ai regardé il y a quelques jours.
Ouais, 2 avril Toscane, ouais. 16 avril Paris-Deauville, que j'ai mis en ligne hier.
Ah,
et
cool.
Ouais, avril, il y a Flanders là qui arrive 26 février, ça va être un peu costaud au niveau
météo, je pense. Ça va être risqué, que... ouais. Concernant le ouais. Les, tu vois, je reprends là, tu me parles du mec qui t'a demandé des conseils. Je vais citer Mike Horn, dont je suis pas un grand fan, mais il a quand même quelques fulgurances qui méritent le détour, et il a dit quand on part, il faut juste 5% de réponse. Le reste arrive en route. Ceux qui veulent 100% des réponses restent à la maison.
Exactement. Bah ouais, il a des fulgurances. Je sais pas si c'est lui qui les a écrites ou voilà, mais en
tout cas, service com qui est très fort.
C'est pas ses filles. Elles étaient trop petites quand il a écrit, parce que moi, j'étais fan de Mike jusqu'à que je le rencontre en vrai, que je lui propose une expé et qu'il me regarde comme si j'étais un enfant de 5 ans, et j'ai souri parce que je sais que si je fais du vélo avec lui, je peux lui faire mal au canne, quoi. Mais Mais c'est un mec exceptionnel qui a fait des choses dans le monde de l'aventure que je pense plus personne. Moi, j'ai ce rêve absolu du latitude zéro, tu vois, de le faire avec un vélo en vertical et en horizontal, tu vois, la ligne équateur et faire la perpendiculaire. Ce sera mon truc de vie, tu vois. Je sais qu'un jour, j'irai là-dessus. Ce qu'il a fait, personne ne peut lui enlever. Et cette citation que tu dis, c'est la vérité. Ça marche pour tout, tu vois, dans la vie. Je pense que j'ai pas d'enfant, mais quand tu fais des enfants, c'est la même chose. Quand tu rentres dans un job, c'est la même chose. Mon premier job que j'ai eu, c'était dans la publicité. Et il y a un gars, mon patron, il me dit, j'étais un rendez-vous client, on sort du rendez-vous client. Et je dis, mais mec, on n'est pas capable de faire ça. Et on n'est pas capable de faire ça, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est le vendre. Et après, on voit. Et je le regardais comme ça, je fais, ok, c'est ça la life, en fait. Tu fais, et puis après, on voit, quoi. Et en fait, toutes mes aventures, ça a été ça, tu vois. Comment tu traverses le lac Baïkal, comment tu pars sur des trucs. Il y a une époque où les gens me disaient, mais t'es pas grimpeur, tu viens de Paris, tu vois. Alors que les Néerlandais, ils ont des grands grimpeurs, tu vois, c'est très français. Tu viens de Paris, tu peux pas grimper l'école et tout, tu te dopes. Bah non, pas vraiment. En fait, tu sais, il y a des trains, tu peux aller dans les Alpes ou... Tu sais, si tu montes 70 fois la même bosse, tu commences à faire du D+, quoi, si elle fait 100 mètres de D+. Donc voilà, non, ne jamais se fixer de limite et puis faire, quoi. Tu vois, toi, t'en es un bon exemple. Je t'ai connu, tu me parlais d'un projet de podcast, ouais, je sais pas, je vais faire un site et tout, et maintenant, t'es devenu central dans ce milieu du gravel, quoi, tu vois. Et ainsi de suite,
pas tant que ça, hein, quand même. Merci.
Bah,
hein, c'est très gentil, mais parce que
tu chopes des gens de tous les horizons du cyclisme, tu les regroupes autour de ce qu'on pourrait définir comme de l'aventure, tu vois, parce que je parlais d'exploration, mais je vois des gens beaucoup qui se considèrent comme des explorateurs et ils ont exploré leur route, tu vois. Et dans ce monde-là, ce qui compte, je pense, c'est faire des trucs et t'en fais. Donc, quand on fait, pour moi, on devient central. Et donc, ouais, bravo pour ça. Enfin, je te le dis en off, mais voilà.
Tiens, rien que pour la peine, peut-être que je vais le couper ou pas, d'ailleurs, pour une fois. Non, je le laisserai. Ouais. Est-ce que t'es déçu d'avoir... J'en déduis que oui, t'es déçu d'avoir rencontré Mike Horn?
Non, je suis pas déçu de l'avoir rencontré. Moi, ce que j'aime, c'est avoir la vérité dans la vie sur plein de trucs. Non, je suis pas déçu par ça. Je suis déçu par le fait de, j'ai jamais eu beaucoup d'idoles à part Lance Armstrong et je me suis un peu trompé, mais en fait je l'aime toujours.
On en parlera après, ça
restera voilà un truc central. Mike Horn, en fait, il a révolutionné le truc, voilà. Déception, c'est plus, je fais un projet sur le réchauffement climatique où il y a quelques mensonges sur l'Arctique. Il se fait élitrailler directement pour aller à Paris-Dakar l'année dernière. Mmh. Ouais, ça me fait mal parce que personne lui en veut. Enfin, beaucoup, mais ça s'est pas trop vu, mais beaucoup lui en tiennent rigueur.
Oui, mais ça s'est pas passé inaperçu quand même. Ça n'a pas été super apprécié quand même.
Tu vois, là, son projet Gen Z, j'ai été voir Air Liquide pour savoir comment était extrait, notamment parce que tu sais, j'ai un projet sur le réchauffement climatique sur des 6 déserts à travers le monde qui est en financement depuis 2 ans. Donc voilà, je vais voir Air Liquide, je leur demande comment est extrait. Donc voilà, c'est gaz, comment marchent les voitures, comment fonctionne le truc. Et en fait, ils me disent, pour extraire, c'est 80% d'énergie fossile, quoi. Donc, il faut 95% de pétrole pour faire marcher une voiture à l'hydrogène. Ah, ok, d'accord. Et tu vois, quand ils relancent un projet comme ça, ça me fait mal au bide. Parce que je dis, putain, en fait, dans la vie, faut être un menteur, quoi. Et j'arrive pas. Je te jure, j'arrive pas à être comme ça, j'arrive pas à faire ça. Et puis, en plus, ça marche, quoi. ça marche de, ouais, il a de plus en plus de fans, de trucs, parce que c'est la période qui veut ça. Et alors, je pense que c'est un super mec, mais c'est dur quand t'es médiatisé, quand tu veux devenir faire de toi un business model, t'es obligé à un moment de transgresser un peu le truc et parfois un peu la vérité, mais c'est la vie.
Je sais plus où j'ai lu ça. Ou si je l'ai entendu, je sais plus. Ne rencontrez jamais vos idoles, elles vont vous briser le cœur.
Ouais. Ouais, c'est le patron de Compressport qui m'a dit ça une fois. Il me dit tu devrais pas te dévoiler comme ça. Sylvain, il m'a dit ça. Il me dit ouais, tu devrais pas te dévoiler comme ça. Tu fais tomber le mythe. Et je dis mais moi je m'en fous du mythe en fait. Moi ce que j'aime c'est partager avec les gens et vivre le truc. Voilà, j'ai eu deux mecs qui sont venus voir après l'arrivée. Ils me demandent il y en a un qui voulait que je lui signe sa fourche et l'autre une casquette. Et en fait, je l'ai regardé comme ça et en fait, tu vois, je suis l'organisateur des Gravelman, tu vois, j'étais pas le truc Steven Lerick qui voit pour certains à la télé qui m'ont connu comme ça sur certains trucs et ça me touche, mais je m'en fous au fond. Tu vois, ça me fait du bien, mais au fond, je m'en fous parce que ce que je voulais, c'est que tout le monde soit heureux dans ce truc-là. Et voilà, si tu commences à te masturber, si tu commences à signer une casquette, c'est que tu vas pas bien et que t'es pas très heureux dans ta vie, mais moi ça va.
Bon alors Lance Armstrong, t'es déçu ou pas? Ou franchement tu l'avais pas un petit peu vu venir quand même?
Ah qui se chargeait la gueule, mais fin, j'ai fait du vélo, enfin voilà quoi, je m'en fous en fait, je m'en fous tu vois, et je m'en fous encore plus parce que en fait ce qui me rend dingue c'est l'injustice dans la vie. Et en fait on lui a fait plus de mal et on le détruit jusqu'à sa mort. Alors, beaucoup plus qu'un violeur, un chef d'État qui a tué des millions de gens, lui, ce qu'il a fait, c'est plus grave, tu vois, parce qu'il a triché sur le Tour de France, quoi. Est-ce qu'on pose la question à un gars qui fait du football américain, du baseball, du culturisme? Enfin, bref, je vais pas donner des leçons sur tous les sports où il y a eu des contrôles positifs, mais c'est un truc de fou, quoi. Les sportifs de haut niveau, notamment les cyclistes, depuis une dizaine d'années, ils ont presque le bracelet électronique. Ils doivent dire où ils sont toutes les 3, 4, 5 heures. Et c'est dingue, quoi. Tu vois, c'est le truc de... Ah, tu vois, avant, c'était aller poupou, quoi. Après, ça a été aller virinque. Et après, c'est dopé, quoi. Tu vois, quand je courais, je me rappelle, on nous avait envoyé de la pisse. Je sais plus sur quelle course ça a été, Tour des Pays de Savoie ou je sais pas quoi. On me jetait de la pisse sur la gueule, quoi, parce que on faisait du vélo, quoi. Et ça, ouais, peut-être Lance a aidé, Armstrong a aidé, peut-être d'autres ont aidé à ça, mais on n'en veut pas à Richard Virenque, mais on en veut à Lance Armstrong, tu vois. Bien sûr qu'il a fait plus de mal que se charger la gueule, mais voilà, je trouve que c'est trop, un petit peu l'addition, mais après, ce n'est que mon avis, et je vais me faire défoncer après ça sur les réseaux sociaux.
Je l'ai fait avant toi, j'ai jamais caché mon admiration pour Lance. Et j'écoute son podcast qui est génial,
ouais.
Qu'il anime avec Georges Incapi et Johan Brunel, et c'est une merveille à écouter parce qu'il décrypte le dernier c'était sur les championnats du monde et la stratégie française pour faire gagner Julien, mais personne ne peut se permettre de dire ce qu'ils ont dit et de décrypter comment ils ont décrypté parce qu'ils en ont rien à foutre, ils se sont fait choper, ils ont plus rien à cacher, ils ont plus de secret à maintenir. Ils peuvent y aller.
Ouais.
Et du coup, on apprend des trucs, mais, et un point de vue, et on peut dire ce qu'on veut, on le sait, tu vois, avec tous les documentaires qui ont été faits, les machins. Brunel, ça reste un super stratège, un super tacticien. C'est un vrai, vrai plaisir de les écouter. Tout simplement.
Bien sûr. Comme Manolo Sainz, comme d'autres, comme Bjarne-Riis, tu vois, c'est des escrocs, mais c'est des génies. C'est des génies du cyclisme et ils ont monté des équipes aussi, tu vois, ils ont monté des équipes, c'était des stratèges, et au-delà de ça, pour monter un business model, parce que c'est eux qui ont créé un business model avec le vélo quand même. Ils ont monté comme le fait une entreprise. Bah pour gagner le Tour de France, il faut prendre tel mec à tel endroit, tel mec à tel poste, tel mec à tel truc, un soigneur, un machin, un truc, et ils ont fait ça à l'américaine, quoi. C'est pas plus grave qu'un trader qui vend des barils de pétrole ou des armes ou machin. Enfin, voilà quoi. Et je pense que c'est ils ont fait rêver des millions de gens. Et c'est un des derniers mecs qui m'a fait vraiment rêver sur le tour, quoi. Je le dis ouvertement. Voilà. Des fois, je me fais chier, quoi. Après, j'adore les mecs avec qui j'ai couru, même en fin de ma petite carrière microscopique de coureur, qui, tu vois, des Thibaut Pinot et tout ça, j'ai vraiment de l'affection pour eux, Arnaud, Demar, tout ça, tous mes potes, Pierre volant, tu vois, tous les gars qui j'étais. J'étais quand la génération 85, 86, 87, les gars, c'est des machines, quoi. Mais non, j'ai de l'affection, mais ils l'ont tous, pour certains, ils l'ont tous adubé, tu vois, c'était un peu l'idole de tout le monde, machine et tout. Et puis après, on te crache dessus, t'es un connard, quoi. Donc voilà, mais c'est la vie.
Dis donc, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, mais finalement, Gravelman, c'est pas juste une aventure sur un week-end, c'est aussi un marchepied vers des trucs plus conséquents.
Ouais.
Parce que quand t'as fait un Gravelman, tu sais déjà ce qu'il faut pas faire. En arrivant, tu sais pas exactement ce qu'il faut faire, mais quand tu ressors, tu sais ce qu'il faut pas faire. Et ça donne une indication sur le matériel, tiens, est-ce que je vais passer en tubeless ou pas? Oui, les mecs et les filles, passez en tubeless, ça vous sauvera les miches plus d'une fois. Sur l'entraînement, est-ce qu'il faut rouler plus, l'alimentation, plein de trucs, est-ce que je pourrais un jour faire une transcontinentale ou un biking man ou plein d'autres épreuves géniales? Maintenant, avec ça, ils ont la réponse.
Ouais, et puis les préparer, quoi, tout simplement, parce que quand tu fais un 350, moi j'ai créé ce format 350 entre 300 et 350 parce que pour moi c'est le meilleur compromis quand je m'entraîne pour une épreuve, que ça soit une expédition de longue durée ou que ça soit un format ultra de 2000 à 5000 km. Dakar, je l'ai préparé comme ça. Les sorties de 300-350 bornes, c'est les trucs où, tu vois, au bout de 200, tu commences à avoir mal à la tronche. Et au bout de 350, t'as compris, quoi. Parce que t'as presque fait une nuit. Enfin, t'as fait un bout de la nuit. Moi, j'essaie toujours de faire la nuit. Des fois, je pars même à la mi-journée, tu vois. Je pars à midi et je reviens très tard. Et 350, ouais, t'as le temps d'avoir vécu tout ce que peut comporter une course d'ultra-endurance. Comme tu dis, la bouffe, mais aussi de réfléchir à l'ouverture des boulangeries. Le jour, la nuit, tu vois, savoir l'éclairage, est-ce que mon truc il tient tant de temps, gérer une balise pour ceux qui vont faire des épreuves après, un tracking, leur GPS, la navigation, savoir si leur truc, c'est, tu vois, je leur disais, vous ne sortez pas des lampes à 1 euro, vous mettez à l'arrière de votre vélo pour aller au boulot le matin. Je veux pas de ça, c'est faut que ça dure 350. Tu vois, trouver des prises. Savoir pourquoi faut prendre une power bank, tu vois, je leur disais c'est bien d'avoir une power bank. Bah ça sert à quoi? Moi je vais la rentrer en 12 heures. Et les gars ils sont arrivés en 50 heures. Putain, t'avais raison. J'ai mis plus de temps que prévu. et je souriais parce que je vais pas leur dire je te l'avais dit parce que sinon j'aurais dit à beaucoup. Mais c'était dingue de voir l'apprentissage. Tu peux pas donner aux gens, obliger les gens à apprendre quelque chose ou à faire quelque chose si tu leur permets pas d'expérimenter, tu vois. Si j'ai compris peut-être une chose dans la vie, c'est ça. C'est faut expérimenter pour apprendre. Et ouais, j'ai tout eu, quoi. Les gars qui se foutaient de ma gueule, parce qu'ils disaient, ça sert à quoi d'avoir des lunettes en janvier? S'il fait -5, tu perds tes yeux, quoi. Mais du coup, après, ils avaient des lunettes et voilà, ou certes, ceux qui avaient pas de lunettes, ils arrivaient avec les yeux rouges. Ouais, tu vois, regarde, ils avaient un œil qui clignotait, tu vois. Et ils me disaient, tu vois, bon, je me suis pas niqué les yeux, mais bon, un petit peu. C'est comme ça, tu trouves les réponses sur le chemin, quoi.
Ouais.
Et après, tu me remercies ou tu m'insultes, ou les deux, mais souvent, ils m'ont fait des câlins, ouais, à l'arrivée.
Bon, ils sont gentils,
des
alors.
Des câlins Covid, quoi.
Ouais.
Câlins Covid avec masque, quoi.
Ouais, avec du bout des orteils. On a un autre point commun. C'est nos soucis de navigation. Et la semaine dernière, j'ai fait un épisode spécial GPS et optimiser son GPS en me remémorant mes problèmes de navigation et en me souvenant de ta mésaventure sur la French Divide. T'as réglé ça comment, toi, après?
C'est pas des soucis de navigation, c'est des soucis de Steven Le Yarrick qui est un branleur depuis toujours. Et c'est des soucis de d'anciens cancres à l'école qui part dans un truc de même Paris-Dakar, j'en ai eu des problèmes. Le truc, c'est que Paris-Dakar, c'est presque une ligne droite qui t'emmène de Paris à Dakar. T'as 2-3 conneries, voilà. Mais c'est assez droit quand même. Là, sur la Divide, j'ai fait le con parce que, en fait, je voulais économiser ma batterie et je calculais tellement tout que, en fait, je perce crevaison lente au moment de dormir. À minuit, on faisait minuit 4 heures de sommeil avec Joachim. On pose nos trucs Et comme un connard, je pense que j'ai garé mon vélo sur des... Enfin, bref, je me suis mis une épine dans la roue. Le lendemain matin, j'ai crevaison lente, je suis à plat, quoi. Et je pars et tout, putain, je suis mou et tout. Et Joachim, il me regarde, il était beaucoup plus fort le matin que moi. Et je dis, franchement, tu sais quoi ? C'était ça, en fait. Le truc, c'est on fait pas la course ensemble. C'est on fait nos trucs, si on se retrouve, on se retrouve. Et ce qui est arrivé, c'est que j'avais éteint mon GPS, j'avais éteint tous mes trucs, parce que quand je faisais la navigation, lui, il la faisait pas. Et l'éclairage, je faisais pareil. Tu vois. Des fois, j'éteignais toutes mes lights pour gagner en économie. Enfin, on était arrivé à un truc un peu de barjot. D'ailleurs, je me suis pris quelques pelles comme ça. Mais en fait, j'avais plus la map. Je rallume mon truc, je mets la map et j'appuie sur la trace 14 au lieu de la trace 13. Donc, elle m'envoie directement au CP, quoi. Mmh. Donc, des tours de 60 km en montant Mont d'Or. Enfin, bref, j'ai pris 1000 de D+ gratos et j'envoie un message à organisateur et qui m'a gentiment dit, comme il dit à tout le monde et je le respecte, soit tu fais demi-tour, soit t'es scratch. Ah, je lui ai dit, bah, scratch-moi. Parce que moi, j'ai rencontré un frère là-bas, quoi, Joachim, c'est devenu un pote et je dis, franchement, ça sert à quoi? Je vais faire demi-tour. Je vais faire 4e ou 5e ou 3e de la course. Et est-ce que c'est super cool ou est-ce que tu retrouves ton pote et tu rigoles et on continue notre truc, notre balade jusqu'à Biarritz ensemble? Et j'ai même pas réfléchi une seconde, quoi. Je suis revenu sur la trace. En plus, j'étais énervé, donc je fais une petite vidéo sur tous mes réseaux pour dire bah voilà, je suis scratch, donc je suis hors course, machin. Suivez-moi quand même, mais c'est fini. Et puis en plus, j'étais énervé, donc je roulais vite, je le rattrape et je lui explique et tout. Il me dit putain mec, je suis désolé. Je dis bah je m'en fous en fait. Moi, je fais ça pour ce n'est qu'un prétexte à m'aventurer, tu vois, à découvrir des chemins que je connais pas, à rencontrer des gens, à vivre, à me pousser, parce que évidemment tu vas pas te taper 10 jours dans la pampa, sauf si t'es un peu sadomaso, mais en dormant 2 heures par nuit, quoi. Il y en a qui le font, je respecte, mais j'ai du mal à le faire tout seul. Et voilà, quoi, faire la bagarre, et j'ai continué à faire un peu ma bagarre avec le Tchèque là, qui était pas très loin, et puis on a rigolé, ouais, on a beaucoup rigolé. On a pris une leçon quand même par ce Tchèque inconnu qui est arrivé, qui a fait 1000 miles, je sais pas où, aux États-Unis, qui casse ses 2 suspensions avant et l'arrière de son VTT et qui avait un sac à dos de 12 kilos toute la course quand même, quoi. Pas de pochette de bikepacking, un boucher Tchèque, quoi. On revient à 30 secondes de lui et je dis à Joachim, tranquille, on va... Comme quand j'étais coureur, quoi, on va le laisser mourir. On l'a jamais repris, le gars. On a mangé des pizzas et on a perdu 25 minutes là. On bouffe des pizzas, on repart. Et en fait, son tracker se met à jour et genre, il était 25 minutes devant. Je dis, bon, bah, de toute façon, ce soir, on le double et il va dormir. Et on l'a jamais rattrapé, quoi. Mais comment j'ai réglé ça? J'ai bossé, quoi. J'ai bossé. On a passé du temps aussi avec Garmin. En fait, moi, j'ai le truc de, des fois, je suis un peu, tu vois, c'est mon caractère qui veut ça, hein. Je suis bélier, je suis tigre de feu en signe chinois, tu vois. Ouais. Je mets tous mes pions et ça passe, quoi.
Dis-moi, tout à l'heure, tu m'as parlé du Paris-Dakar. Est-ce que ça t'embête, ouais, de voir Stéphane Brognard s'attaquer à ton record? Et quand on voit ses entraînements dans les Vosges, je pense qu'il va pas traîner le bonhomme.
En fait, pour la petite histoire, Stéphane m'a envoyé un message directement, pas pour me demander si ça me dérangeait, mais pour me demander des infos, des tips, et voilà, ce qui est assez normal, ce que je fais d'ailleurs très très rarement parce que j'adore être dans la merde et puis découvrir le truc. J'aime bien les records, mais au fond, ce que j'aime, c'est être sur la route, quoi. Du coup, Dakar, faire 20 jours, voilà, je m'étais mis 20 jours au début, 18 jours, et puis en fait, j'ai rallongé ma trace pour aller dans l'Atlas, tu vois. J'ai rajouté 4-5 000 de D+ gratos, quoi. Donc, on peut faire plus court, on peut aller plus vite. Donc, quand il m'envoie le truc, ouais, ça m'a fait chier. Parce que je dis, mais en fait, pourquoi tu fais pas un autre truc? Il y a quand même pas mal de trucs à faire, tu vois. C'est comme si j'envoyais un message à Mike Horn pour lui dire, voilà, je suis chaud pour faire l'altitude zéro, Mike, est-ce qu'on peut aller s'entraîner ensemble? Et je pense que ça le gênera, tu vois. Le truc, c'est que il m'a impressionné sur Viking Man Corsica. Vous voyez, ces chronos, c'était C'était un contexte un peu particulier parce que bon, ils avaient le couvre-feu, donc c'était une course de vélo, hein. C'était deux ou trois courses de vélo d'affilée, et non pas une course d'ultra, quoi. Et il allait vite, quoi. Il allait vite. Il a, je pense qu'il a craqué un peu à la fin, mais il était solide. Et puis non, il va s'améliorer. Comme je lui ai dit, je pense que Dakar, si je le refais aujourd'hui, je pense que je peux le rentrer en 16 jours, tu vois. En prenant le plus court, en sachant tout ce que je sais aujourd'hui, en reprenant le matos que j'ai, tous les trucs, ma logistique, pas non plus prioriser le contact avec les gens et transmettre un documentaire après, cool, tu vois, ça prend du temps, tu vois, discuter avec des caméramans, gérer la photo, gérer plein de choses aussi, gérer des contacts avec Surfrider Foundation en plein de trucs. Enfin, tout ça prend du temps, c'est la vie, mais c'était le projet. Donc je lui ai dit, ça passe en 16 jours. Après, il me dit, mais ça veut dire quoi? T'es au Guinness et tout. Ah, je dis, non, il n'y a pas de Guinness, ça vaut 10 ou 20 000 balles. Du coup, il n'y a pas de Guinness. Je lui dis, bonne chance, ouais, si t'as besoin d'infos, dis-moi. Et après, il m'a renvoyé un message un jour où j'étais un peu full-time juste avant le Gravelman Roubaix, je crois. Où il était à Paris, et il allait chez Opel, je crois, et il voulait me voir pour prendre un café, discuter. Non, c'est sur le coup, ça te fait un peu chier, quoi. Tu vois, c'est comme un gars, je pense, qui a un record et quelqu'un vient lui manger. Ah, j'ai envie d'y retourner, quoi. Et tu vois, j'étais à la limite de me dire, est-ce que je le mets pas en legend gravelman, tu vois, du genre, je le mets en course et. Et je dis à Lyle Wilcox, tu vois, Hayden, Sofiane, je leur envoie un petit mail, je dis, bon, bah, les gars, voilà, je fais un Paris-Dakar, c'est gratos, juste, faites moins de 20 jours. Et puis, bon, je pense qu'ils le claqueraient assez aisément. Mais, c'est bien. C'est bien qu'ils fassent ça, je trouve ça cool. Tu vois, il a traversé l'Atlantique à la rame, c'est un truc qui me donne envie depuis un certain temps. Je trouve ça bien qu'il y ait des mecs comme lui qui là il va populariser un peu auprès d'autres communautés le vélo, le bikepacking et puis ouais, je vois qu'il bosse dur et ça aussi c'est nouveau, tu vois, dans le bikepacking. Une fois j'avais vu le titre d'un pote des podcasts où tu avais posté ça, c'était Maxime qui disait moi je ne m'entraîne pas ou je ne m'entraîne jamais. Bah ça c'est en train de changer, quoi. C'est un truc qui est en train de changer. Il y a des athlètes ou des anciens athlètes qui se mettent à l'ultra et au bikepacking et machin. Du coup ça va peut-être aller un peu plus vite, ça va peut-être un peu différent, ça, voilà. Quand je vois un Eric Le Blacher là qui a fait la Race Across France et il s'est fait battre, et puis sur Gravelman là il s'est fait chatouiller par des gars qui roulent pas mal, mais bon, c'est drôle. Tu vois, c'est des communautés qui s'affrontent et ça croise des choses.
On en revient quand même toujours, oui, à cette histoire de course. On en revient quand même toujours à l'histoire de faire la course.
Là, tu parles des gens qui sont devant. Hein.
Oui.
Moi, le premier, quand on m'annonce sur la Bound to Ride qui n'est soi-disant pas une course, tu vois, c'est pas une course. La French Divide, c'est pas une course. Gravelman, c'est pas une course. Mais ça reste des trucs où quand t'es devant, ouais, on va citer qui c'est qui est arrivé en premier.
Évidemment.
Et sur la Bound to Ride, quand on m'annonce, on me dit, bah, il y a le Suisse qui vient d'arriver juste devant toi. Et je dis, ah ouais, trop bien, c'est cool, on va faire la bataille. Et on me dit, ah, il y a Jacques Barge qui est 16 heures devant toi. Bah, non, Jacques, je l'ai doublé à hauteur de Chartres. Alors, je l'ai doublé au bout de 100 bornes, c'est pas possible, tu vois, donc ça va piquer, quoi. Alors que c'est pas une course. Mais j'ai dit, comment tu peux rouler plus vite? Alors que j'avais pas dormi une minute, je roulais à 35 tout le temps. Je comprends pas, quoi. Donc ça m'avait piqué et je revenais à ce truc-là, mais c'est ma structure mentale aussi, tu vois. Je t'avais vu où c'était Rock d'Azur Gravel, tu vois. T'aimes bien ce truc de se challenger. Moi, ce que je veux, c'est donner le meilleur de moi-même, faire le max. Et bon, si je suis premier, deuxième, dixième, cinquantième, je m'en fous, en fait. Mais j'essaie un peu, ouais. La course avec soi-même, hein, c'est souvent la plus efficace. Hein. C'est ça le problème dans le monde du vélo, c'est que moi je suis arrivé à un moment où je dis, mais c'est les mecs, ils ont une vitesse de plus, quoi. Tu vois, je dis, je suis en sixième depuis depuis 200 bornes, et là, ça commence juste à accélérer, quoi. Et là, tu dis, bon, bah, je vais changer de sport. Je vais arrêter parce que voilà, là, je suis arrivé à mon plafond de verre, quoi.
Je reviens sur la citation de Maxime que tu as donnée. Donc, pour être précis, il s'agit de Maxime Barra, qui est super cool, ouais, et super expérimenté. Et sa citation complète, c'était « Je ne m'entraîne jamais, mais je fais 25 heures de vélo par semaine. »
Ouais.
Dans le sens où il roule pas pour faire, pas pour s'entraîner, mais uniquement parce qu'il aime ça. Et du coup, de fait, il roule beaucoup. Mais tu as raison, ouais, sur le, on le voit depuis, c'est vraiment flagrant depuis 2 ans où on voit des Lael Wilcox, J. Peter Vary, James Hayden qui prennent des coachs l'hiver pour faire du gainage, du renforcement, ce genre de truc. On a vu Arnaud également, Manzanini, faire du renforcement l'hiver dernier, pas cet hiver-là évidemment. Et évidemment que le niveau va augmenter. On a vu également Sofiane cet hiver, avant qu'il ne se blesse, déclarer qu'il voulait, qu'il essayait de mettre sur pied un programme d'entraînement structuré. Et évidemment que ça va aller de plus en plus vite. On voit surtout, spécialement avec Sofiane, que son système de pas dormir arrive au bout. Qu'il pouvait rouler comme bon lui semblait, ne pas dormir, et il arrivait devant les autres. Sauf qu'aujourd'hui, les autres ne dorment plus non plus et ils vont plus vite. Donc aujourd'hui, il va falloir vraiment se préparer de mieux en mieux, être des athlètes ultra complets et pas simplement partir en se disant « Les mecs, moi, je m'en fous, je dors pas. » Donc c'est sûr que ça va aller. Mais il y aura de la place pour tout le monde finalement. Et c'est ça qui est génial et qu'il faut que tout le monde comprenne, enfin si je puis dire. C'est que ceux qui veulent faire la course, on n'empêchera pas les mecs comme toi, comme Cédric Destouches de Chartres, donc que je connais bien parce qu'on habite pas loin l'un de l'autre. Mais quand on peut aller vite, on y va et après on fait selon nos moyens et il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est sûr que oui, ça va aller de plus en plus vite. Donc sachons-le.
Ouais. Ouais, je pense après. Après, j'espère qu'un jour, qu'il y aura des contrôles antidopage dans l'ultra-endurance aussi. Tu vois qu'il y aura un peu un truc fédération parce que tout le monde se déclare championnat du monde de ski, truc machin. Et en fait, je croyais que le championnat du monde, il y avait la transcontinentale, la race cross américaine. Enfin, tu vois, des trucs qui existent depuis hyper longtemps. Et tu vois, savoir structurer, c'est quelque chose qui est nouveau. Tu vois, pour moi, c'est... J'ai dit ça il y a 5 ans, mais franchement, l'ultra vélo, ça devient le trail, ça va être le trail de demain, le trail running, ouais, qui était un truc de gars en short et en t-shirt et qui faisait le tour du Mont Blanc. Et maintenant, tout le monde connaît la discipline, mais il y a des superstars mondiales maintenant qui sont même connus du grand public et en ultra, peut-être ça arrivera un jour. Je suis pas complètement sûr parce que tant que le Tour de France existera, ça restera la valeur numéro une, mais il y a plein de choses qui se font, et oui, t'as raison. Et puis il y a des mecs qui faisaient de la course qui arrivent, qui vont vite et qui dorment pas, quoi. Parce qu'avant, on disait, ouais, faut pas rouler vite et puis faut pas dormir, mais là, ça roule vite et ça dort pas, quoi.
Quand on voit la vitesse à laquelle Sofiane et les autres sont allés sur la Tout Volcano, non seulement ça dormait pas, mais en plus ça roulait vite et c'était pas une autoroute en plus.
Je devais y aller. J'ai été testé positif au Covid. Sinon j'y étais. Tu vois le canot, parce que quand j'ai vu la start list, j'ai dit j'y vais. Ça sert à rien de dire. Ça sert à rien de dire que tu vas vite alors que t'as jamais couru avec Fiona, Sofiane, Hayden et qu'on sort, ça sert à rien de tu vois, je dis toujours, s'il y a que ta mère qui te connaît, enfin, dis pas que t'es un champion, quoi. Va voir les mecs qui vont vite, et puis j'ai pas pu partir.
Il faut se mesurer. Fiona non plus est pas partie, donc ce n'est que
partie remise. On était trois à devoir y aller, sur les gens qui voulaient faire un peu la bagarre, mais après, j'aurai ça en fin d'année, mais j'attends de voir les start list pour m'inscrire. Mais maintenant, en fait, quand une start list s'ouvre, genre 3 jours après, c'est full les courses. Alors, enfin, les courses ou les épreuves.
Ouais.
Donc, il faut être rapide. Mais non, ça va arriver. Ça va arriver quand ça doit arriver. J'ai envie de faire la bataille. Tu vois, même là, dimanche, la fin à vendredi, parce qu'il est arrivé vendredi. Eric et les 3-4 premiers, quand ils sont arrivés, ça me titillait. J'avais envie de faire la bagarre, quoi. Je me dis, putain, j'avais envie de jouer avec eux. En fait, j'avais envie de jouer avec eux. Moi, j'aime jouer à faire la bataille, mais gagner, au fond, je m'en fous, parce que j'en retire pas quelque chose de, tu vois, tu gagnes une banane, quoi, là, qui est la même que le dernier, hein, donc.
Bah, ce qui est rigolo, c'est de faire la course. C'est un jeu de quand on était enfant, tu vois, quand on se mettait d'un côté de la cour d'école et puis on se mesure, on le fait à pied ou on le fait à vélo. Et au bout du compte, c'est un plaisir d'enfant de faire la course et de voir qui va le plus vite. Et puis au bout de l'histoire, on reste amis après. Et c'est juste le plaisir de faire la course, mais pas de se sentir supérieur et... tiens, je pourrais citer.
Ouais, ça te rend humble.
On apprend vite l'humilité, tu vois. Tout à l'heure, je parlais en rigolant des histoires de navigation. Quand on fait ce genre d'erreur et qu'on passe réellement pour un con ou pour un connard, on apprend vite l'humilité. Donc, c'est de se retrouver avec des mecs qui vont largement plus vite que soi. Je le souhaite à tout le monde. De rouler, c'est trop facile d'être dans son canapé et de dire ouais mais les pros machin, non, faut rouler avec un pro ou un élite une fois dans sa vie et se rendre compte vraiment de la différence entre eux et nous, et c'est vraiment génial, c'est fascinant de rouler avec quelqu'un qui est 10 fois meilleur que nous, c'est vraiment une expérience unique. Il n'y a pas à être triste, c'est comme ça.
Discuter avec les gens en vrai, quoi. Ouais, discuter avec les gens en vrai, parce que moi, ça m'a fait rire. J'ai vu des critiques sur des réseaux et tout, sur la Divine, mais j'explosais de rire, parce que... Mais vous ne me connaissez pas, quoi. Je rigolais, je dis, mais vous ne me connaissez pas. Mais je dis, mais moi, au fond, j'en ai rien à foutre. C'est juste ce système, en fait, cette espèce de système révolutionnaire, communiste, machin truc, qui est le sport... ultra-endurance, machin truc, en France. Et par contre, la règle, elle est stricte. Allez, tu tournes un kilomètre, t'es scratch, tu vois. Ce truc-là, ça m'a fait sourire parce que je dis, mais vous êtes des révolutionnaires, mais en fait, c'est le régime de Poutine, le bordel. Moi, s'il y a quelqu'un qui se trompe de 5 bornes sur Gravelman, j'en ai rien à foutre. Même si tu veux prendre un bout de trace route, un bout de trace gravel, je veux juste que tu te fasses plaisir et que t'ailles au bout de tes rêves. Moi, je trouve ça con. Tu vois, j'ai vu un mec sur la Divide. Le mec a fait quand même, il a mis directement, au lieu de mettre, il s'est gouré, il a pris navigation par défaut pour aller à Charleville-Mézières. Mmh. Il est sorti de 500 km, il a fait toute la Belgique. Il est allé dans le mauvais sens, en fait. Et il est arrivé à Charleville-Mézières, donc 2 jours après les autres. Donc, il a posé ses vacances, il s'est acheté un vélo, des roues, des super pneus qui vont bien, un groupe, un machin, et il est scratch au bout de 2 heures, tranquille, il a posé ses 15 jours de vacances, putain. Donc, quand il rentre chez lui, qu'il explique à sa femme, elle lui dit, rendez-vous dans 3 ans, hein, parce que là, on va faire un petit point financier, puis je trouve ça con, en fait, mais après, c'est les règles qui veulent ça et tout, mais c'est dur. Moi, personnellement, je te jure, hein, je m'en fous. Au fond, je m'en foutais grave, mais ça m'a fait mal, parce que je dis, en fait, c'était mes trucs dans France qui ressortait de t'arrives à un contrôle et tu dis ouais, ça va passer je pense, et t'as pas révisé et voilà, le bac ou machin, ouais, je pense que ça va le faire, hein, t'inquiète, au talent, et là non, en fait c'est vraiment une trace, quoi.
Il y a trop de règles, il en faut, mais c'est difficile en fait pour vous organisateurs sur ce genre de truc de dire allez-y, vous avez un parcours et vous faites comme vous voulez. C'est difficile de leur dire, de pas leur dire, je vous conseille de prendre plutôt un peu d'éclairage, je vous conseille d'emmener un minimum à bouffer. Parce qu'on sait que.
Ah non, ça c'est obligatoire.
Certains
pour moi.
Ont tendance mais à se voir un petit peu plus beau. Trash. Oui, mais tu vois, à la limite, se dire, il y a trop de règles, et on peut, si c'est l'aventure, et si, comme on le clame sur les groupes Facebook, le gravel c'est la liberté. C'est la liberté de faire comme on veut, et c'est la liberté de laisser les gens faire des bêtises. Mais c'est difficile aussi de se dire j'envoie les gens au casse-pipe. Quand même.
Ah ouais, j'ai aucun problème avec ça. C'est juste la règle des 1 km, des machins, tu vois. Comme sur une Transconti où t'as un carnet de 62 pages, tu le lis, déjà t'as l'impression que t'as fait maths sup, maths spé. Et t'as fait le truc et tu connais déjà tout le truc, il faut que tu bosses, quoi. Et je trouve ça génial. Enfin, tout le monde s'y met. J'ai vu pour le Maroc que c'était un peu pareil. T'as plein de questions pour déjà sécuriser le truc. Ça évite le nombre de questions, c'est-à-dire environ 500 que j'ai reçues depuis que j'ai créé ce petit truc qui est Gravelman. J'ai quand même une américaine qui est la fille. Il y avait pas possibilité de se tromper quand tu pars de République pour prendre la trace. Elle est quand même arrivée à Longchamp, dans le mauvais sens de la phrase. Elle a fait demi-tour. Elle est retournée à Chantilly et elle m'appelle et elle me dit, je comprenais la moitié et tout. Et elle me dit, j'ai un swim dans le canal de l'Ourcq. Et je dis, bon, bah, elle a dû tomber. C'est une expression. Elle a dû tomber dans le canal de l'Ourcq. Je dis, on peut aller chercher. Non, j'ai un swim. Et en fait, elle arrive après la course et elle me dit, donc c'était pendant l'épreuve quand même. Et elle me dit, c'était génial et tout, j'ai adoré, c'est le plus beau moment en vélo de ma vie. Et j'ai même pu nager, comme je te l'avais dit, dans l'Ourcq avec mes amis. Donc la meuf a nagé dans le canal de l'Ourcq avec ses potes le samedi. Et elle est revenue à l'arrivée nous dire que c'était génial alors qu'elle a pris qu'un bout de trace, tu vois. Je dis, bah, l'autre bout, il était super, hein, je te jure. Le Vexin, la vallée de Chevreuse, c'est sympa aussi. Ah, je referai peut-être quand je reviens. Ouais, pas de problème. Tu reviens quand tu veux, mais elle s'est inscrite le lendemain pour Deauville, hein, donc j'espère qu'elle va pas aller dans le mauvais sens parce que, que l'Auvergne n'est pas loin. Hein.
Bah, je pense que pour les organisateurs et même enfin pour tout le monde, il faut accepter que tout le monde ne vient pas avec le même objectif et que tout le monde n'a pas forcément envie de finir et tout le monde n'a pas envie de rentrer dans le cadre. Et ça peut être difficile à accepter ou difficile à comprendre en tout cas, mais tout le monde n'a pas envie de rouler vite, tout le monde n'a pas envie de finir, et il y en a à qui ça pose pas de problème. Et c'est bien.
Ouais, et puis non, mais en fait, elle a eu des sensations exceptionnelles de se retrouver avec des gens, de parler avec des gens et de se comprendre. Et elle m'a fait une éloge pendant une heure en me disant, mais c'est énorme, parce que elle arrive et elle me dit, j'ai crevé de l'arrière et tout, machin. Et j'ai senti qu'elle voulait un petit peu que je lui change son truc. Donc, j'ai changé sa chambre à arrière devant tous les bénévoles qui me regardaient halluciner. Mais je dis, parce qu'il y a mon photographe qui venait de me dire 10 minutes avant, c'est pas mon taf de conduire le caméraman et tout. Je dis, c'est pas mon taf de changer la chambre à arrière de la fille, mais en même temps, c'est mon taf. Donc je lui fais.
Les photographes.
Et puis, elle repart toute contente. Et puis, voilà, quoi. Mais, tu vois, ça veut dire quoi, l'aventure? Ça veut dire ça, quoi. La fille, elle arrive, elle fait son truc, là, elle se réinscrit, elle s'inscrit sur le Mont Blanc, quand même. Ah, j'adore Chamonix, c'est vraiment la ville. Il n'y a pas de problème. Mais en fait, il y a vraiment 10 000 mètres de déplus, mais j'ai adoré vraiment quand tu montes le premier col. Mais t'as fait tout le tour? Non, juste comme ça, j'ai juste regardé la montagne. Ouais, c'est des prétextes pour s'aventurer.
Si elle est heureuse avec ça, évidemment que ça prête à sourire, mais après tout...
Moi, j'adore.
Et c'est, à la limite, c'est les gens les plus heureux, parce que se mettre la pression, se prendre la tête, je veux finir en tel temps, est-ce que j'ai le bon vélo, est-ce que j'ai les bons pneus, machin, c'est une prise de tête. Alors que venir dans cet état d'esprit et s'en foutre royalement et d'être content de ce qu'on a, c'est une vraie richesse, finalement, peut-être.
Ah non, mais grave, c'est m'a rappelé mon époque, quand j'étais au Népal et tout ça, que j'avais pas de contraintes, et si je voulais prendre un bus, me perdre dans les montagnes, dans la vallée de Katmandou et tout, j'adore ça, mais je m'attendais pas à ça, parce qu'elle travaillait à la Défense, tu vois, elle a un super poste, machin, elle m'a envoyé 40 justement. Mails super bien structurés, et en fait, elle voulait juste kiffer, quoi. Et moi, j'adorais, parce que je trouvais ça un truc de liberté, mais ouais, certains étaient hallucinés, parce que il me dit, non, on l'a jamais vu la gonzesse, là. Tu vois, ici, c'est quand même, jamais vu la gonzesse.
Bah oui, mais on connaît pas toujours tout le monde. Et des fois, le monde est un petit peu plus vaste que son quartier ou sa ville. Il y a des fois incroyables, on rencontre des gens qu'on connaît pas. Et qu'elles viennent de la Défense, mais tu vois, ça m'étonne pas. Qu'elles bossent à la Défense, ça m'étonne pas. Il y a un besoin d'aventure, de sortir. Tu vois, des gens qui prennent un boulot parce que ça fait bien, parce qu'ils veulent que les parents soient fiers. Pour une sorte d'image de statut social, mais au bout du compte, ce qu'ils veulent, c'est être MacGyver.
Je raconte toujours ça. Hein. Les gens viennent à mes conférences pour ça, parce qu'on te met dans un tuyau dès le plus jeune âge, dès la crèche, école maternelle, école machin, et t'arrives collège, lycée, et orientation. Tu veux faire quoi? Je vais faire ça. Ah, mais tout le monde veut le faire. C'est cool. Vous allez tous faire pareil. Puis tu vois, c'est pour ça qu'on est en pénurie plein de choses en France. Et voilà, quoi. Mais je trouve ça cool. Et puis, les gens sont égaux, en fait. C'est un des seuls moments dans la vie où tu peux être l'égal d'un autre, même si t'as un vélo à 15 000 balles, ça change rien.
Donc t'as mal au
cul. Un gars avec un vélo avec des sacoches. Ah, mais grave.
Ouais, tu peux rouler avec le président Macron, mais n'empêche qu'il aura mal au cul pareil.
Même Lens, il peut avoir mal au cul.
Ouais. Bah, j'espère bien. J'aimerais tellement lui poser la question.
Tu sais, j'ai un projet documentaire. Ça fait 2 ans que je l'écris. Hein, c'est sur les repentis, en fait. Tous les repentis, j'espère qu'ils sont toujours vivants quand j'arriverai à le financer. Mais ouais, sur tous les repentis, poser la question why, quoi. C'était quoi ton truc? En fait, ils sont comme nous. Voilà, ils sont comme nous. Tu vois, Yann Ulrich, il est comme moi. Tom Boonen, tous les champions qui ont été connus, reconnus, qu'on t'adore, tous, au fond. C'est des gosses comme nous qui ont eu des rêves, qui ont bossé dur, qui arrivent, qui arrivent pas. Après, tu fais des conneries, tu rentres dans des trucs. Mais voilà, dans le monde du travail, il y en a plein qui trichent, on leur en veut pas, quoi. Et dans le vélo, bah, tu te fais détruire, t'es presque emprisonné et t'es humilié partout, toi et ta famille. Mais
bah, le travail, voilà, la musique, c'est super cool d'être tout, musicien aussi. Et d'être drogué, personne en veut, il y a plein de musiciens, il y a plein d'exemples, personne en veut à Lou Reed d'être un toxo et de faire de la musique de toxo. Bon, il me semble qu'il est mort maintenant et j'ai jamais aimé ni Lou Reed ni le Velvet, donc voilà, ça c'est fait. Mais c'est pareil pour les autres, tu vois, tout à l'heure je te parlais de Metallica, les mecs étaient des alcooliques notoires, personne n'en en veut. Mais par contre,
c'est encore plus stylé, quoi, limite.
Bah oui. Ouais, t'as fait quoi récemment, à part le Gravelman, parce que t'as fait une petite expé récemment ou pas?
Expédition. Ouais, j'ai le rêve enfoui de mettre un vélo sur les 7 plus hauts sommets de la planète, tu vois. Ça fait un petit moment depuis l'Himalaya, j'ai ça dans la tronche, tu vois, parce que j'ai vu qu'à 5004, même jusqu'à 6000, j'arrive à porter un vélo et à le mettre au sommet, et puis même à rider des fois à plus de 5000, voire 6000. Et donc, je me suis dit que c'était possible et j'ai été avec Perrine Fage, tenter de grimper le Kilimandjaro le plus vite possible à vélo pour ma part, et elle, une fois à vélo et une fois à pied, en faisant la course un peu tous les deux, elle en mode trail et moi avec le vélo sur le dos ou à côté ou dessus quand je pouvais. Et voilà, quoi. Donc, ouais, c'est un record du monde entre la Kilema Gate et le sommet et puis revenir, parce que personne n'était jamais allé aussi vite pour monter, mais aussi pour descendre jusqu'en bas et d'aller-retour aussi. Mais c'était dingue. Puis les rencontres après, ça a été marquant. Évidemment, le Kili, c'était spectaculaire parce qu'on a vécu, encore un truc exceptionnel avec Perrine, comme à chaque fois. Mais après, il y a eu des rencontres avec les animaux de la savane. Mes rêves de gosse, rouler à côté d'un éléphant, pas très loin des lions, pas très loin d'animaux, d'avoir un zèbre qui te croise la route, enfin même 60 zèbres. En même temps qu'ils croisent la route, et puis voilà, on a été à la rencontre des Maasai aussi, un peuple qui me fascine, enfin tous ces peuples entre guillemets, ce qu'on appelle autochtones en France, mais je supporte pas ce nom-là. Mais ouais, je suis allé à la rencontre des Maasai et ouais, ça m'a bouleversé parce que eux aussi on essaie de les changer, on les taxe, on commence à taxer leur terre, à taxer l'eau, à les punir et puis à essayer de les faire rentrer dans le rang comme partout dans le monde. Et ça m'a bouleversé parce qu'on n'est pas pareil, quoi, parce qu'on est pareil et comme ils disent là-bas, et comme m'a dit mon pote là-bas en partant, et il m'a fait un clin d'œil, il m'a dit Hakuna Matata, et voilà, il y a rien qui est grave dans la vie, quoi. Il m'a dit, il y a rien n'est grave dans la vie, voilà.
Non.
Comme au Népal, comme partout dans le monde, il m'a fait un clin d'œil et qu'est-ce qu'il m'a dit? Everything. Attends, il m'a dit quoi? Ah, parce qu'ils sont fans de reggae. Alors, Bob Marley, genre, un truc hyper central. Et voilà, mais il me dit, everything gonna be alright. Parce que j'étais triste de partir. Et je lui dis, tu me vois là? Je lui dis, tu me vois comment? Il me dit, fort, très fort. Je lui dis, bah, tu vois. Je pense que j'ai jamais été aussi faible parce que j'ai rencontré des frères et je vais devoir vous quitter et je veux pas partir. Et il me dit ça. Il me dit Hakuna Matata. Et il me dit tout va bien se passer, t'inquiète. Je dis bah non, mais je veux rester avec vous. Tu vois. Et voilà, mais c'est comme au Népal, comme partout. C'est on a des frères partout sur la planète. Et moi, j'adore ça. Pour moi, c'était plus fort que le Kili, quoi. Kili, c'est cool, ça a fait rêver tout le monde et moi le premier. Mais les Maasai, ça m'a bouleversé, quoi, parce que ils vivent pas avec un arc, des flèches et machin, mais il y a des moments où c'est un peu comme ça et c'est la life, quoi. Et ils sont heureux, ils prennent pas d'antidépresseurs comme beaucoup de d'occidentaux, on va dire. Ouais, ça m'a touché. J'étais très très touché par ça et voilà. Ça m'a changé encore une fois et ça m'a rappelé combien j'aimais me sentir vivant, ouais, puisqu'on a eu 2-3 fois où j'ai laissé Périne à 300-400 mètres derrière moi. Et parce que, un, j'avais peur qu'il y ait des animaux. Et en fait, il y a ce que je croyais être un buffalo. En fait, les buffalos, ça tue entre 50 et 100, et 100 personnes par mois en Tanzanie. Et au Kenya, et du coup, en fait, je savais pas que c'était hyper dangereux. Je pensais que, oh là là, c'est le lion qui est méchant. Et en fait, ouais, les buffalos, et je vois un buffalo au loin. Et en fait, c'était un gnou. Et j'approche à 100 mètres, et il se retourne vers moi. Et tu sais, j'ai des cornes sur mon, j'ai des ergons là, sur mon VTT, et il me regarde. Donc face à moi, mais j'ai pas compris ce truc. Ils avaient un problème avec moi, quoi. Ils avaient un problème avec ces cornes sur mon vélo. Et ils se retournent vers moi et ils voulaient jouer, quoi. Mais sauf que quand ils jouent, ils se mettent des coups de corne. Moi, s'ils m'avaient mis un seul coup de corne, il y avait plus de Steven, quoi. Je m'arrête. J'attends que Perrine arrive. Je cherche mes mots pour lui expliquer exactement ce que je pense faire comme stratégie. Et elle me dit, bah de toute façon, on fait demi-tour et tout. Et je dis, bah non, parce que ça se trouve, il y en a derrière. Alors voilà, je lui dis, bah alors, je t'explique. S'il fait plus de 10 mètres à droite, on le laisse avancer et on va aller très vite. Mais comme t'as jamais été vite dans toute ta vie, et surtout, la seule chose que tu dois pas faire, c'est surtout, tu ne touches pas tes freins, Périne, je veux pas te voir freiner. Évidemment, elle a freiné dans la descente, évidemment, on a flippé et on s'est retourné que 2 bandes 5 après, mais c'était drôle, quoi. C'est drôle parce que, tu vois, là, c'est l'aventure. Là, tu te sens vivant parce que ouais, quand t'as un buffalo, il y a un soir où on rentre à notre tente et on revenait un peu de la ville entre guillemets, et je vois un truc, parce que maintenant je suis vraiment pas parano, mais je suis très attentif au terrain, notamment sur le Baïkal, il y en a eu des histoires un peu comme ça, et je fais gaffe et je vois un truc au loin et je dis rentre à l'intérieur, je ferme la fermeture éclair, et en fait il y avait un bébé hippopotame. Hippopotame, en fait, c'est pas une chance sur deux qui te tue, c'est 100%. Il a 100% de réussite. Il te mange la jambe, il te mange en intégralité, il te défonce, quoi. Et en fait, il y avait un bébé hippopotame qui était à 15 mètres de la tente, quoi. Donc, juste si la maman arrivait, on était morts tous les deux. Et voilà, on a attendu un peu et comme il a eu un peu peur de ma frontale, il s'est barré, quoi. Parce qu'ils veulent pas non plus, voilà, mais ils bouffaient de l'herbe à côté, ouais. C'est sympa. Et puis le lendemain, comme on avait bien aimé l'hippopotame, Périne, elle me dit, bah, on est allé sur le bord de l'eau, il y a des pêcheurs qui nous proposent d'aller donc naviguer. Mais on était à 200 mètres de l'endroit où on avait vu cet hippopotame. Et genre là, je pense qu'il y en avait 100 ou 200 sous l'eau. Ils étaient pas capables de nous dire combien il y en avait. Il y en a un qui te retourne la cabane. Là, on est tous morts, quoi. Mmh. On était 4 dans la barque. Et voilà, on a survécu. Mais on s'est senti un peu vivant, quoi. On se regardait tous les deux. Et ils disaient, non, ils sont pas là. Ils sont un petit peu plus à droite. Ah, parce que vous voulez vraiment les voir. Non, 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 ça va. Là, on est pas mal, là. Ouais, non, hippopotame, faut pas jouer. Voilà, c'est sympa.
Qu'est-ce que tu fous encore à Paris?
C'est Gravelman, ça.
Qu'est-ce que tu fous encore à Paris? Pourquoi tu t'acharnes à monter des aventures depuis Paris, alors que tu pourrais juste te barrer dans un cabanon dans un pays quelconque, le Népal ou n'importe où ailleurs, et vivre ça au quotidien et être pleinement vivant, plutôt que t'enterrer à Paris?
Franchement, Viens sur le gravelman ou tous les gravelman que tu veux. Tu comprendras qui je suis. Sinon, tu comprendras pas. Mais ça
c'est
nourrit.
Le meilleur argument marketing que j'ai entendu.
Non, parce que j'ai pas dit ce que c'était gravelman. Gravelman, tu vas comprendre très très vite ce que c'est. Mais tu comprendras qui je suis et pourquoi je fais tout ça. Parce que j'aime tellement les gens, en fait, contrairement à tout ce que certains disent, des petites communautés réfractaires, ce que je peux être des fois sur les réseaux sociaux. En fait, on joue tous un rôle dans la vie. On joue tous avec notre personnalité, notre vie, notre carrière, notre truc. Et en fait, j'aime tellement les gens. Et je suis tellement inquiet pour tout ce que vivent les gens. Je suis tellement... Quand je donne tout, en fait. Il n'y a que ceux qui ont participé à ces épreuves qui peuvent comprendre, mais je donne tout, vraiment. Et les gars, en fait, j'aime tellement ce sentiment d'avoir donné la possibilité à quelqu'un de se sentir vivant et donc de changer un petit peu, je pense, ça c'est mon avis, dans le bien. Je suis tellement accro à ça que j'ai envie de le faire. Là, je suis en partance. J'aimerais très vite déménager soit en Auvergne, soit dans les Alpes pour, voilà, ou soit en Suisse parce que, voilà, je vais voir comment s'organise ma vie. J'avais pas encore, penser que Gravelman, ça prendrait cette tourneur-là et ça avancerait de cette manière-là. Mais non, à chaque fois que je reviens, ça me fait chier. Mais en même temps, tu vois, quand je reçois 150 messages comme j'ai reçu là, c'est tellement, en fait, c'est tellement dingue d'avoir ce sentiment de se sentir un peu utile dans la vie que ouais, ça vaut tous les trucs, toutes les aventures du monde. Après oui, j'aime m'aventurer. Népal, je pense que un jour j'y vivrai 6 mois et 6 mois ici en Occident, disons, et voilà. Mais non, c'est trop beau, en fait, ce que j'ai vu ce week-end, ce que j'ai vu à Roubaix, c'est trop beau. Tu vois les gens qui chialent parce qu'ils sont fiers d'eux, que tu traverses l'Himalaya, que tu fasses le Kilimanjaro, que tu fasses Latitude Zéro ou que tu fasses Gravelman ou Bikingman ou Jean-Michel Mann, franchement, c'est la même chose. Hein, mais c'est la même chose. La vérité, c'est que les gens se sentent vivants, ils sont fiers d'eux, ils te remercient, mais avant tout, ils sont fiers d'eux, quoi. Ils ont fait un truc, ils ont vécu un truc fort. Donc voilà. Et ouais, je te redis merci parce que je pense que tu ouvres la voie à plein de trucs, tu désacralises un peu plein de trucs dans cette discipline-là et ça t'arrête de mettre des barrières à des... Je les appelle les Jean-Michel, mais parce que c'est un monde de, tu vois, à une époque, quand j'étais coureur, j'ai créé ce truc de Jean-Michel parce que j'avais des mecs qui arrivaient, notamment quand j'étais à Nogent, ils venaient nous voir au départ, et le gars, il critiquait tout ton vélo, tout ton équipement, et les gars, c'était Jean-Michel pour moi. Bah, pourquoi vous avez pas des boyaux sur vos vélos et tout? Bah, en fait, on a un sponsor pneu. Ouais, mais c'est plus efficace que les boyaux, tu vois. Et ce truc de Jean-Michel est resté de pourquoi tu prends un Triban, machin truc, tu devrais prendre un je sais pas quoi, un 3T Exploro à 10 000 euros quand même, c'est beaucoup mieux, hein, tu serais plus à l'aise. Tu devrais mettre des 650B carbone avec des 2.2. Mais fais pas chier, je veux juste faire du vélo, gars. Tu vois,
il y a plein de trucs comme ça. On en avait parlé un petit peu avec Camille Defer quand elle avait terminé la Gravel Trop Braise, et elle me racontait que les gens chez qui elle dormait étaient un peu incrédules. Ils pensaient finalement que comme eux n'y arrivent pas, c'est impensable que Camille y arrive. Et pour la recommandation matérielle, j'ai l'impression que avec les sites en ligne, il y a beaucoup de recommandations et sur les groupes, on voit ça. Ah ouais, ce pneu-là, il est bien, je recommande. Mais en oubliant que ils sont satisfaits de ce pneu ou de n'importe quel accessoire à un moment donné de leur utilisation, de leur connaissance, de leur pratique, de leur physionomie aussi. Peut-être qu'ils sont minces, maigres, qu'ils roulent vite, etc. Et avoir la prétention de dire... Ce vélo, il est bien, je le recommande, ou non, ça c'est de la merde, moi j'ai eu une mauvaise expérience avec, faut pas rouler en WTB ou faut pas rouler en René Hers ou prends telle marque, c'est vachement bien, moi j'adore. C'est à la fois super prétentieux, super narcissique et super con, et je suis désolé pour tous ceux qui m'écoutent, et j'ai eu plein d'occasions de faire du nettoyage dans mon parmi les gens qui m'écoutent.
Ah, mon audience,
ouais. Ouais, parce que des fois, puis on l'a tous fait, moi le premier, de pontifier un petit peu comme ça, j'ai fait ci, avec ça, je suis super content, tu devrais essayer. Mais en fait, c'est pas vrai, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis vraiment contre les tests de matériel, parce que ça n'a aucun sens. Et quand je vois des, quand je vois des d'autres, enfin, quand d'ailleurs depuis toujours, depuis que je fais du vélo, tu vois, quand j'achetais le cycle dans les années 90 avec mon père, c'était 4 vélos à 10 000 francs. Et aujourd'hui, on voit 4 vélos à 10 000 euros. Et puis, on voit les mecs ergoter sur « Ouais, il est bien, mais il pourrait être mieux. » Puis, ça relance bien dans les côtes. Enfin, c'est de la connerie. Au bout d'un moment, qui a les capacités sensorielles de dire que tel vélo est bien ou pas bien? Et tu l'as dit tout à l'heure, il y a des mecs qui font Gravelman ou plein d'autres épreuves avec des vélos qui sont pas idéales ou idéaux, je sais plus si on accorde ou pas. Et ça, c'est valable pour plein d'autres trucs. C'est pas forcément l'outil qui fait le bon ouvrier ou le bon artisan. Et voilà,
et oui,
je conclue là-dessus.
Tu sais, je dis toujours, j'ai traversé l'Himalaya avec un vélo en aluminium qui pesait 14,5 kg et une fourche de...
Ah, je t'ai perdu là.
Et même sur mon matos, je dis ça passe quoi. Ah mince, bon, c'est pas grave, t'as une belle conclusion.
Non, mais tu peux refaire, t'avais un vélo pourri en alu qui faisait 14 kilos et une fourche pas adaptée, si j'ai bien compris.
Oui, je dis toujours que j'ai traversé l'Himalaya avec un vélo à 999 € en aluminium avec une fourche de 100 mm. Et c'est passé, quoi. C'est passé. Et, oui. Mon Sherpa qui avait un vélo tout carbone, Trek, comme une Ferrari rouge, tu vois, et c'est son rêve absolu. Il a cassé deux fois ses pédales. Il a dû changer ses roulements et il a eu plein de problèmes. Et puis voilà, mais c'est la vie, quoi. Je prends toujours l'exemple des guides népalais aussi qui arrivent avec du matos pour Aves et on leur offre du matos pour monter l'Everest. Et en fait, le jour de l'ascension, on leur dit, mais il est où le matos?
Ah, ils le prennent pas.
Ah non, j'ai pas. Non, parce qu'ils le revendent pour gagner de l'argent et ils prennent leur ancien matos en fait.
Sur Amazon Prime, il y a un documentaire sur les Sherpas, sur les trucs comme ça. J'ai oublié le nom, mais il est sur.
Ça s'appelle Sherpa, je crois.
Ouais, bah ouais, peut-être. Bah voilà, le mec, c'est pas foulé, tu vois.
Ouais.
Donc bon, c'est pas le meilleur documentaire du monde, mais c'est sympa. C'est pas Icarus ou Meru, mais en tout cas c'est sympa quand même. Voilà. On va terminer. C'est quoi ton rêve absolu?
Mon rêve absolu, c'est d'éradiquer la pauvreté dans le monde.
Un rêve réalisable. Désolé pour la touche de cynisme.
Absolu... Non, mais c'est la vérité. Je veux voir les gens heureux. Après, moi, mon rêve absolu d'aventure, déjà de financer mon projet 666 et voilà, de mettre un peu l'aventure au centre, parce que voilà, j'ai envie que les gens se sentent vivants et ouais, traverser l'Antarctique avec mon vélo, traverser une grande partie de l'Arctique, faire ce dont j'ai rêvé et ce que j'ai écrit et le financer, et puis après le transmettre au plus grand nombre en le finançant et puis en le diffusant. Mais ça, c'est qu'un rêve personnel. La vérité, c'est que ce que je veux, c'est que les gens soient heureux. Le reste, au fond, je te promets, Steven Leyerick, j'en ai un peu rien à foutre, tu vois.
Tu pourrais mourir demain, ça te dérangerait pas si on te disait demain, Steven, tu meurs à 14h13. Qu'est-ce que ça te fait? Demain, à 14h13, ça s'arrête.
J'irai déjà parce que j'en ai déjà parlé à Perrine et à d'autres gens autour de moi. J'irai, je prendrai un avion pour le Népal et puis je simplifierai le travail parce que j'ai demandé qu'on dépose mes cendres au sommet de l'Everest. Alors, ça leur évitera de payer un billet d'avion, mais j'aurais vécu déjà deux, trois trucs et voilà. Et j'espère avoir mis un peu la flamme dans le cœur ou dans la tête de certains pour se réaliser eux-mêmes et réaliser des trucs qui pensaient impossibles. Il y a deux semaines, il y a deux ans ou il y a 20 ans. Voilà. C'est ça la vie.
Tout à l'heure, tu m'as parlé de Christophe Colomb. Est-ce que tu sais... Enfin, ouais. Tu sais que c'était qu'il était mauvais, en fait, et qu'il ne savait pas naviguer, qu'il a juste eu la capacité à très bien vendre son projet auprès du roi du Portugal et qu'en fait, il était mauvais. Évidemment tout le monde le sait qu'il a découvert l'Amérique par erreur, mais il a juste réussi à bien s'entourer et je sais plus dans quoi j'ai lu ça et ça m'a quand même fait sourire finalement qu'on parle d'exploration mais il y a un truc aussi dont on ne parle pas, c'est la capacité de l'erreur et de faire des choses, de croire qu'on se trompe et finalement on met le doigt sur un truc majeur. Donc c'est pas mal non plus des fois de partir sans avoir l'appréhension de se tromper, parce qu'en se trompant, on peut mettre le doigt sur un truc monstrueux sans l'avoir soupçonné.
C'est l'Himalaya, ça a été ça. Le Kili, on n'avait pas prévu d'aller voir les Maasai. On pensait nager avec les baleines à bosse. On a adoré les Maasai. Et la dernière histoire en date, j'étais en train de réfléchir 15 secondes avant. Mais non, mais à chaque fois que je me suis perdu dans la vie, pour revenir à la French Divide, je pense que c'était un des plus beaux moments de la trace quand je me suis perdu, en fait. Parce que j'ai dit, putain, il y a du gaz là, il a pris des risques quand même. Et en fait, j'étais plus sur la note. Et voilà, et tu vois, j'ai vécu un moment énorme. J'ai dit, putain, il a pris des risques quand même. Derrière, ils vont en chier et tout. Et tu, en fait, c'était pas la map.
T'étais pas au bon endroit.
C'est tout, mais sinon c'était cool, quoi. Tu vois, le gravelman, je leur ai dit aller jusqu'à la Roche-sur-Yon, au moins les gravel par la trace gravel, parce que je vous ai préparé un single de l'espace qui dure, vous allez mettre 2 ou 3 heures, enfin ça dépend des niveaux, mais vous allez vivre un truc. Et même ceux qui sont tombés 4 fois sur un espace de 15 mètres en montée ou en descente, ils m'ont tous remercié parce que c'était aventureux. Et puis c'est ça le gravel, c'est ça, ouais. Le vélo.
Faut se marrer quand même. Bon, ouais, Steven, j'en sais un petit peu plus aujourd'hui, donc merci beaucoup.
C'est bien, ça a duré 4 heures, bonne chance pour le dérochage. Et puis,
le dérochage, qu'est-ce que toi. Tu crois que je vais en faire? Je vais enlever les moments où on a été coupé, le moment où on a été coupé, et puis je vais raccorder 2 morceaux, mais je laisse tout ça brut, voyons, franchement.
Parce que j'ai dit plein de trucs. J'ai dit plein de trucs à Denis Brogniart et Denis Brogniart, il a supprimé plein de trucs intéressants. Alors je sais pas maintenant.
Non, mais là, moi je suis pas Denis Brogniart et puis je laisse les gens faire leur choix, déterminer ce qui est intéressant pour eux et de déterminer ce qui est bien, ce qui est pas bien et chacun prend.
C'est l'auberge espagnole. Je sais pas si je suis intéressant, mais j'ai pas l'arrogance de dire que je suis intéressant, mais je pense que c'est une conversation intéressante qui va faire rire 2-3 gravelman, je pense.
On en est là tous les deux, tu sais, moi aussi je reçois plein de messages de gens qui me disent je t'écoute, je trouve ça vachement bien, maintenant je pars à l'aventure, cette année je vais faire ci, je vais faire ça, tu m'as motivé à m'entraîner et tout, et mais quand j'y pense, j'ai même pas l'impression, enfin je me rends pas compte, et c'est bien, c'est plaisant, comme toi, et à un moindre niveau, moi à un niveau bien moindre que le tien, et c'est plaisant de participer, de se rendre compte qu'on motive les gens et qu'on a un petit impact, mais j'ai quand même des fois du mal à y croire, et il y a quand même la majorité du temps où je me dis que les gens sont gentils juste avec moi, et je pense pas avoir autant d'impact que toi ou les autres veulent me prêter. Je suis pas entièrement convaincu de ce truc là. Cela étant, je vais te laisser
c'est mignon ce petit syndrome de l'imposteur.
Ouais, non, tu veux vraiment qu'on en parle, parce que oui, je vis avec au quotidien depuis des années. Enfin voilà, je vais pas m'allonger. Le jour où je voudrais passer devant le psy, je le ferai. J'emmènerai pas mon micro ce jour-là. Mais oui, évidemment que je l'ai au quotidien. Donc c'est pas super super marrant. Et voilà. Cela étant, je te laisse pour ta minute de solitude. Dès qu'on sera un petit peu plus libre de nos mouvements, on ira rouler. Enfin, je te regarderai rouler devant moi. Et puis voilà. Et puis il faudrait déjà que
je m'en...
Bah si, parce que déjà quand je roule, en ce moment ça fait 3 semaines que je roule pas, donc le retour va être difficile. Et voilà.
Ta micro coupure.
Ouais, j'en avais déjà fait une avant, donc là c'est la deuxième déjà de l'année. Hein, donc il y a eu la micro coupure et puis ce qu'on pourrait assimiler à un burn-out là. Donc c'est pas forcément la meilleure des coupures. Voilà, Steven, merci. Je te laisse pour ta minute de solitude. Bravo encore et à très très bientôt. Et tu raccroches quand t'as fini, hein. Tu racontes ce que tu veux.
Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te raconte?
Ce que tu veux. Souviens-toi, Sofiane, il a chanté, il a déclamé du Baudelaire. Stéphane, il a mimé sa chaîne au Maroc. Donc, je t'ouvre un espace de créativité monstrueux. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux nous montrer ta bite au micro si tu veux. Enfin, ça fera pas de bruit, mais en tout cas. Tu fais comme tu veux.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Alors, pour cette minute, non, je vais ni montrer mon sexe, ni chanter, parce que Sofiane est beaucoup meilleure que moi et ni mimer. Non, mais je vais encourager tous ceux qui peuvent le faire à s'aventurer, à aller de l'avant, aller au bout de leurs rêves, à être pion, à être transgressif, à être insolent, à faire des trucs, et puis vous avez qu'une vie, quoi. Vous n'avez qu'une vie, et puis voilà, quoi. Il y a que ça qui compte. Comme j'ai dit au Gravelman, ce que vous avez vécu ça s'achète pas, et puis personne pourra vous l'enlever, quoi. Quand vous serez, pensez toujours. Quand vous serez au moment de mourir, qu'est-ce que vous allez retenir? Est-ce que c'est la voiture, la maison, le truc que vous avez vécu, ou est-ce que c'est des moments qui vous ont un peu transpercé et qui vous ont fait évoluer, qui resteront? Moi, je pense que c'est ça qui reste, et c'est pour ça que je fais ce que je fais. Soyez heureux, soyez forts, soyez beaux. Écoutez Spotzel. Essayer de le taquiner un peu et puis essayer de lui dire que c'est pas un imposteur parce qu'au fond c'est un gars bien, même si c'est un mec qui écoute du métal. Voilà, j'ai fait ma minute ou il me reste 10 secondes parce que je suis pas un bon élève, alors j'ai pas de compteur non plus, quoi, tu vois. Je fais ça un peu, j'ai pas mis ma ceinture de cardio-fréquence-mètre pour savoir combien de secondes j'ai fait. Putain, tu vas réussir à me garder après ce que me mettre mal à l'aise. On dirait quand t'es à la télé, antenne dans 5 secondes. Ah non, finalement, il y a un sujet sur le basket. Non, le Yarik, on annule. Ouais, t'auras que 5 minutes finalement et t'auras pas 15 minutes. Allez, reprends la main, Jean-Michel Spotzel. Tu as gagné. Ça fait beaucoup plus qu'une minute, hein. Tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Je te jure, je vais rajouter une descente sur Gravelman Mont Blanc juste parce que tu as une descente qui passe que à pied. Une descente qui. Ton Scott, il va se plier en deux, quoi. J'espère que tu vas mettre une petite fourche hydraulique parce que là, tu vas pas passer, mon gars. Ça fait plus d'une minute, hein. Ah, c'est un 3 minutes, en fait. Ok, d'accord. Alors, je vais monter sur l'entraîneur. Attends, je vais faire un peu de l'entraîneur. Est-ce que... Allez, c'est parti. Moi, quand je me fais chier, je roule, hein. Je sais pas vous, mais... Voilà, c'est parti. Tu me dis, hein, quand tu reviens. Attends, je mets du braquet, quand même. La plaque, Jean-Michel. Le Yarik qui revient. Attaque, Jean-Michel. Oh putain. Sur 175 watts. 222. 275. 340. 400 watts. Spotzel a disparu. 500 watts. Grégory Bauger qui revient dans la roue. Et voilà, il est battu par Greg. Arnaud Demar deuxième, Jean-Michel Le Yarik troisième. Et voilà. Je n'ai pas pris de drogue, hein. C'est naturel. Quand je récupère. Putain, je fais une sueur, là. Attends, je vais faire 10 fois 30-30. J'allume les lights, on entre dans la nuit. Ah. Allez. C'est ma batterie qui clignote, j'ai plus trop de batterie. Tu me dis, hein, quand tu t'ennuies. J'imagine même pas ce que t'étais quand t'étais ado, toi. Tu devais être un barjot, putain. Oh, c'est mal. T'as dû faire des afters non catholiques, hein, avant le gravel, tout ça. Allez. Alors, tu vas me commencer par une série de 10 fois 30-30 pour réchauffer tout ça. Putain, je suis en train de faire une suée, quoi. Oh putain, j'ai mis trop gros. Ça va faire 2 minutes à 75%. Tu me dis, hein?
T'es encore là?
Ça va, ça t'a appelé?
Ah bah j'ai pas écouté, j'étais sorti boire un café.
Je pense que ça va te plaire. Il y a une richesse assez exceptionnelle.
Tu sais quoi, ça je garderai
là,
aussi.
Tout fait.
Ah ouais? Ah bah j'écouterai ça.
Je t'ai tout fait. Non mais vraiment.
Ah génial.
Je pense que tu vas pleurer. C'est ta minute de silence, minute de solitude, la plus longue du monde.
Bah non, parce que je crois que
c'est. Comme je suis un bon élève, j'avais pas entendu qu'il fallait raccrocher. Et du coup.
Bah écoute, je pense que Stéphane tient. Enfin, je vais comparer, je vais chronométrer. Et puis, je pensais faire une compilation bientôt des minutes de solitude les plus hilarantes. Parce que
C'est quoi t'enregistres ton truc. Tu prends juste ces 5 minutes et juste tu les écoutes. Si il te reste 5 minutes et tu me dis ce que t'en as pensé ce soir, je pense que tu vas rigoler. Mais peut-être que je me trompe.
Ben, je verrai ce que j'en fais, mais hier je réfléchissais à faire une compilation et de coller en fait des bouts de minutes de solitude les uns aux autres et de pas faire un truc linéaire et de coller les gens les uns les autres et voilà, donc ça va me demander un petit peu de temps et un peu de travail, mais c'est un truc que j'adore et je verrai si je le fais ou pas, mais j'ai pas de doute que c'était super bien, voilà.
je me suis perdu, quoi.
Mais c'est pas grave, c'est important. On n'est pas les. Je t'encourage, je pense que c'est déjà fait, mais je t'encourage à lire Nicolas Bouvier. Et c'était un grand adepte de se perdre en route. Et c'est pas le premier, c'est pas le dernier à avoir fait ça. Et ça, ça fait partie de toute la démarche d'exploration qu'on fasse du vélo, du sport, ou de la musique, ou de la littérature. Les meilleurs moments, c'est qu'on oublie ce qu'on fait. Donc, c'est là où on est le plus libre. Donc.
Ouais, c'est pour ça que je me perds souvent.
Bon, on s'arrête là.
Ouais, prends soin de toi. À
ouais,
très vite et merci mille fois.
Merci à toi, ouais, Steven. À très bientôt. Bisous.
Salut.